Rex Quondam, Rexque Futurus. Épisode hors série, The Green Knight.
Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine.
Bonjour Laïs.
Et de nouveau, nous nous retrouvons, enfin de nouveau, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas vu, mais pour un épisode hors série sur une adaptation cinématographique récente de la légende arthurienne. On sort des textes du Moyen-Âge, même si on prend la suite de notre dernier épisode qui examinait Sir Gawain and the Green Knight, un grand classique de la littérature anglaise. Et là, on va examiner, vous dire quelques mots sur son adaptation récente, enfin récente il y a quelques années, en 2021, The Green Knight, avec notamment Dev Patel dans le rôle star, Sir Gawain, qui a été exclu du titre pour des raisons de... Parce qu'il faut bien se distinguer, il y a beaucoup d'adaptations.
Et puis aussi parce qu'il n'est pas Sir Gawain.
Et aussi parce qu'il n'est pas encore un chevalier, qui sera d'ailleurs un peu le thème de ce film. On va récapituler un peu le film, donc si vous voulez le voir, probablement que... Il faut peut-être pas nous écouter avant. Après, je trouve qu'une des grandes qualités de ce film, en fait, c'est qu'il fait quelques modifications sur l'histoire qui, en fait, permettent, même si vous connaissez déjà Sir Gawain and the Green Knight, de jouer un peu avec vos attentes. C'est-à-dire qu'il y a quelques modifications, on va en parler, mais il y a quelques modifications de l'histoire, les changements qui sont faits. En fait, si vous n'avez pas lu l'histoire, bah vous y prêterez peut-être pas plus attention que ça. Mais si vous connaissez l'histoire, vous allez dire, attendez, où est-ce qu'ils vont avec ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce qu'ils font déjà allusion à ça ou bien pas? Et du coup, même si vous connaissez déjà le roman, ça reste un film qui peut, pas forcément vous surprendre énormément, mais vous laisser un peu anticiper ce qui va se passer.
Oui, c'est un film qui est, je pense que c'est une bonne chose de dire que c'est une adaptation moderne, ou c'est une version, disons, alternative un peu de Gawain le Chevalier Vert. C'est pas une adaptation au sens très littéral, on n'a pas simplement... C'est pas une version filmée du récit, comme peuvent l'être certaines autres versions... Enfin, c'est rare, hein, dans la matière de Bretagne, qu'on adapte un film de façon... qu'on adapte une œuvre de façon très stricte au cinéma. Je n'ai pas beaucoup d'exemples, en fait. C'est toujours une réinterprétation, parce que de toute façon, la tradition est si ancienne que c'est difficile d'en faire une version, disons, le plus littéral. Le seul exemple qui me viendrait en tête, c'est le Perceval, ouais, de Romer, parce qu'il est assez littéralement adapté à la virgule près du texte de Chrétien de Troyes. Mais autrement, c'est vrai qu'on a tendance quand même à altérer un peu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une version qui est très, très inspirée d'un texte précis. Elle tire pas grand-chose d'autres textes. Quasiment tout ce qu'elle ajoute au texte, tout ce qu'elle enrichit dans le texte, vient en fait de l'œuvre originale, mais c'est une œuvre propre, différente, qui dit quelque chose d'un peu différent, et qui, surtout, je pense, c'est rare de trouver, disons, souvent les modifications d'une œuvre médiévale ou ancienne pour l'adapter à un public moderne, ou aux attentes d'un public moderne, peuvent être trompeuses, ou peuvent, je pense, amener le texte original un peu loin de ce qui est central, en fait. Enfin, peuvent amener le propos loin de trucs centraux au texte original. Là, je pense que c'est un rare exemple d'une bonne adaptation qui va vraiment creuser et faire un travail de médiation des thèmes originaux pour un public moderne et pour lui faire comprendre quelque chose que le texte original voulait faire comprendre au public de son temps aussi, quelque part.
Tout en étant, comme on a dit, c'est un texte assez mystérieux, et donc ils essayent d'intégrer, on va dire, une école d'analyse du texte, une interprétation du texte qui n'est pas vraiment dans le texte.
Oui, clairement.
Ils essayent de la réintégrer dans le texte, ça devient un peu le sujet central. Ils le font assez bien, je trouve, mais ils essayent aussi d'intégrer ça.
C'est un parti pris, on est d'accord. C'est pas quelque chose d'une c'est pas, ça révèle pas une vérité profonde unique du texte.
Il y a quelques allusions à d'autres éléments arthuriens dans le fil de l'histoire. Arthur qui tue 960 hommes, qui serait comme à la bataille de Badon dans l'Historia Brittonum. Donc c'est quelqu'un qui le rapporte. Il y a un moment où il change. On va en parler, mais l'histoire change, c'est-à-dire que ça se passe pas comme dans le roman, mais il y a quelqu'un qui le raconte par après comme dans le roman, donc on voit un peu la version déformée, la version qui se déforme. Il y a le bouclier, on a un Gauvin qui a un bouclier avec l'image de la Vierge, qui fait penser à celui que porte Arthur dans la tradition, donc l'histoire de Régum Britanniae, mais aussi peut-être encore plus vieux dans les Annales Cambriae, un peu déformé. Il y a le personnage de Gauvin, qui, on vous l'a dit, un peu les romans de Gauvin, surtout les romans français, il a en général deux problèmes, deux sources des histoires et des conflits dans les romans de Gauvin. Un d'entre eux, c'est sa réputation. Le fait qu'il est précédé par sa réputation, ou bien on croit qu'il est mort et il doit rectifier ça, enfin, dans ceux qu'on vous a déjà discuté, c'est un truc qui revient souvent, ou bien la courtoisie, c'est-à-dire qu'il est le chevalier courtois par excellence et il est mis dans une situation où c'est impossible d'être courtois. Et ça fait un peu les deux mamelles des romans français de Gauvin, et en fait, volontairement ou pas, c'est un peu ce qui se retrouve ici dans The Green Knight, où alors... Ce qui change un peu avec l'histoire originale, c'est que Gauvin ici n'est pas expérimenté. C'est un chevalier qui n'a pas encore eu d'aventure, d'expérience, etc. Mais il y a le thème de qu'est-ce qui fait un chevalier honorable et de la réputation. C'est un thème qui va revenir régulièrement, où Gauvin est précédé par sa réputation, les gens racontent des histoires sur lui, etc. Et il doit être à la hauteur de ça. Donc c'est intéressant parce que c'est pas forcément un thème, c'est un thème qui vient un peu dans Sir Gawain and the Green Knight à la fin où quelqu'un dit tu pourrais t'enfuir et il dit non je peux pas parce que sinon on va me traiter de lâche, mais c'est pas vraiment un thème forcément central. Mais là ça devient ce qui est intéressant parce que ça reflète un peu les challenges habituels de ce personnage.
Oui, disons, quand j'ai dit que ça n'importait pas d'éléments complètement externes, j'allais plutôt dans le sens où on n'a pas combiné, par exemple, ça avec une aventure de Gauvin qui vient du Conte du Graal, ou on n'a pas fait une espèce de crossover en mettant des épisodes intermédiaires qui viendraient d'une autre source. C'est plutôt dans le registre de l'allusion ou de la... C'est plutôt une condensation de matière littéraire sur Gauvin, parce que c'est quelque chose qui aurait peut-être été plus familier au lecteur de Gauvin et de Chevalier Vert du poème médiéval, parce qu'il aurait entendu d'autres récits sur Gauvin, alors qu'un public qui va au cinéma n'a pas forcément entendu beaucoup d'histoires sur Gauvin, il sait peut-être c'est le fils d'Arthur, peut-être qu'il sait que Gauvin voilà, a ces caractéristiques-là, mais on peut pas partir du principe qu'il soit aussi familier avec Gauvin qu'il le serait avec, je sais pas moi, Batman, pour prendre un exemple de héros moderne un peu éculé, mais... C'est un peu ça, quoi. La personne qui a entendu parler un peu de super-héros dans le monde occidental dans l'an 2024 de notre ère, il aura sans doute été familier avec le fait que Batman a voilà, un passif, une identité secrète, une origine tragique. C'est quelques principes-là qui va avoir des questions autour de l'identité, de ce genre de choses. Et on peut maintenant faire abstraction que ça. Là, c'est un peu pareil pour le personnage médiéval, pas forcément pour le lecteur ou le visionneur moderne de Gauvin et le Chevalier Vert ou de The Green Knight. Et donc, ça permet, le fait de tirer sur cette tradition et d'injecter ça, ça permet de donner ce passif un peu, de l'introduire au fil du récit. Donc, c'est en ça qu'il va chercher effectivement ailleurs dans la tradition.
Je trouve ça un peu dommage en fait aussi, parce que justement, comme tu dis, comme c'est un public moderne, tu es obligé que ce soit le nouveau chevalier qui fait ses preuves. C'est un peu le seul setting duquel tu peux partir. De la même manière que toutes les adaptations sur le roi Arthur, on va montrer comment il devient roi, alors que c'est pas vraiment ça qui est intéressant dans ce genre d'histoire. Mais je trouve un peu dommage parce qu'en fait, ça aboutit à exclure un peu certaines. Typiquement, c'est ce dont je parlais dans La mort, le roi Arthur. Lancelot et Guenièvre, quand ils se font attraper, ils ont la cinquantaine. Leur histoire d'amour, elle dure depuis une trentaine d'années. Et ça, c'est une dimension que tu vois jamais dans les adaptations, etc., parce que les chevaliers sont toujours jeunes et fringants, etc. Et je pense que ça peut être une dimension aussi intéressante. Alors, peut-être pas prendre les âges de la mort, le roi Arthur, parce que je crois Gauvin a 70 ans pendant le combat et tout, Arthur en a 90. Enfin, c'est peut-être un petit peu. Ils sont
exagérés.
C'est peut-être la chronologie est peut-être un peu trop prise littéralement, etc. Mais je trouve un peu dommage. Après. Comme tu dis, dans les éléments qui prennent des romans un peu français, etc., t'as le portrait de Gauvin, par exemple. On avait dit que c'était un thème qui revenait, donc dans les continuations de Perceval, t'as la fille de Lys qui a un portrait de lui. Dans Un Beau, t'as une dame qui a même son husbando, une statue de Gauvin dans sa chambre. Comme disait, comment il s'appelle, ce livre-là, L'île de l'inconnu sur Gauvin, qu'il est, tout le monde l'adule, mais les gens le reconnaissent pas en personne, donc il est précédé par sa réputation. Et là, on a le Gauvin qui se fait tirer le portrait avec une dame qui a une
chambre noire.
Qui a découvert les propriétés du nitrate d'argent par hasard.
Disons, je trouve que les, moi je serais pas autant d'accord le fait que ce soit qu'il soit jeune. Je me suis dit au début c'est un peu bête de faire ça comme ça, mais d'un côté ça permet de présenter ça comme une quête d'honneur et comme un processus comme ça d'apprentissage plutôt que d'un truc de maintien. Ouais. Et je pense d'un point de vue narratif c'est quand même plus facile à avaler et à faire comprendre aux gens si tu commences avec un protagonisme un peu plus feuille blanche et que tu montres plutôt l'acquisition ou l'absence d'acquisition plutôt que tu pars d'un état de base qui est de toute façon pas familier avec lui. Qu'un spectateur moderne n'aura pas forcément une baseline du concept d'honneur ou de comportement normal, et commencer par son absence ou en tout cas la recherche de ça permet plus facilement de l'expliquer, je pense. Et puis ça tire un propos différent, un peu c'est un peu une version différente dans le sens où ça effectivement ça intègre cette grande différence d'âge entre Gauvin et Arthur qui n'existe pas autant ou pas de façon aussi forte dans la tradition, ou en tout cas qui n'est pas visible, même si elle peut exister. Bah, comme tu dis, 70, 90, il y a quand même 20 ans de différence, ce qui est peut-être pas loin de sa différence d'âge dans ce film, si on part du principe qu'Arthur est simplement très décrépit avant l'heure. Mais quelque part, elle n'est pas aussi visible qu'elle l'est
ça,
ici.
Ça, c'est un élément que j'ai bien aimé, justement, de faire Arthur, Arthur vieillissant. En fait, je trouve que c'est quelque chose que tu ne vois pas souvent. Arthur, c'est plutôt le jeune roi, l'espoir amputé.
Et d'ailleurs, c'est le cas dans Gauvin le Chevalier Vert. Explicitement, c'est un jeune Arthur qu'on a dans Gauvin le Chevalier Vert. Ce n'est pas un vieil homme. Donc, c'est clairement un parti pris.
Ce choix-là, je l'ai trouvé plus intéressant. Après, ça marche assez bien. Je trouve que je me rappelle quand le casting avait été annoncé, j'étais là, Dev Patel, c'est assez parfait parce qu'il arrive à... Il arrive à jouer des personnages qui sont très embarrassés, mais dont tu sens quand même qu'ils ont une certaine estime d'eux. Enfin, il a le genre de il arrive vraiment à manifester ce dont tu as besoin pour ce genre de rôle, sans devenir insupportable et sans qu'on n'y croit pas. J'étais très content. Puis quand je l'ai finalement vu, j'étais là, oui, effectivement, ça marche hyper bien. Même si, justement, c'est un message assez différent du roman, où le roman, la conclusion, comme vous l'avez dit, c'était... que Gauvin revenait avec un certain... ce qu'il ramenait de son voyage du héros, c'était une certaine forme de honte, qu'il n'avait pas été à la hauteur et que les gens étaient là, genre, tout le monde en rigolait, mais que lui, il gardait une espèce de blessure secrète et sous-entendu peut-être que il en revenait meilleur avec une certaine humilité et une certaine... c'était plus ça, c'était un peu, on a pris Gauvin et on l'a fait descendre d'un cran. Là, évidemment, c'est un ton un peu différent parce qu'il n'est pas le chevalier le plus accompli de la cour d'Arthur, etc.
Il y a un autre truc différent, je pense que c'est, et on en reparlera quand on parlera de la fin, mais la conclusion auquel on peut arriver, effectivement, en lisant Gauvin le Chevalier Vert, ça peut varier, mais on peut aussi faire une lecture de Gauvin le Chevalier Vert extrêmement pessimiste, et ça, c'est la lecture, je pense, qu'on a le film, en fait, du roman, c'est que la fin de Gauvin le Chevalier Vert, c'est un présage, ou en tout cas un symptôme, ou c'est peut-être forcément la cause, mais c'est un présage de la fin du royaume arthurien. C'est une chute. Qui est présenté, c'est les raisons de la chute quelque part, c'est un motif de chute. La cour d'Arthur qui accepte l'échec, qui rigole quelque part de l'échec de Gauvin et qui s'en fait une marque de fierté, c'est un symptôme d'une corruption quelque part. Ouais. Et là, le film, je pense, prend ce parti pris et en fait quelque chose en plus que je trouve intéressant. Mais effectivement, c'est pas forcément compatible avec une lecture, positive du roman original, ce qui est ça qui est intéressant.
Si tu veux faire une lecture turbo-littéraire de ça, c'est que tu dis, le roman commence par « When the assault and siege seize the Troy », et puis à la fin, il rigole exactement comme les Troyens qui festoient quand ils croient qu'ils sont à l'abri des Achéens et qu'ils ont amené le...
Ouais, le cheval de Troie, c'est la
honte de Gauvin, qui est le cheval de Troie qui va
faire... C'est la ceinture, justement.
Et puis
Gauvin, c'est un personnage, tu pourrais faire le parallèle que Gauvin, c'est un personnage un peu à l'Odyssée ou à l'Ulysse. C'est le polyboulos de la matière de Bretagne.
Mais ce qui...
Arrêtons ces
parallèles. Mais ce qui... Après, un des éléments sur lequel ils ont pu s'appuyer dans le texte, c'est qu'on l'avait dit, Gauvin, quand il relève le défi du Chevalier Vert, il dit « Je suis le plus faible, je ne vaux rien, je ne vaux que par le sang que je partage avec toi ». Enfin, il s'humilie profondément devant Arthur. Et puis, dans la version qu'on lisait, on disait « c'est probablement un euphémisme ». Et là, en fait, ils ont pris un peu ce discours littéralement de Gauvin qui n'a pas d'exploit à son compte et qui doit sa place à ce banquet au fait qu'il est le neveu d'Arthur et qui, du coup, en est à une espèce de complexe d'infériorité et qui relève le défi précisément parce qu'il a envie de se distinguer. Alors, ceci étant dit, on va vous résumer brièvement, on va peut-être pas forcément s'appesantir beaucoup dessus, surtout que c'est un film, en fait, où, en termes de ce qui se passe, il y a beaucoup de scènes très contemplatives. On vous l'a dit quand on racontait le roman. En fait, ça va assez vite quand on résume à ces éléments propres. Et le roman, développer beaucoup les sensations, les scènes de chasse, la description des couleurs, donc beaucoup de descriptions qui installaient une ambiance très saisissante. Et le film reprend un peu ça en faisant un peu de remplissage. Ou bien il y a un passage où on nous dit « Oh, Gauvin, il a eu des aventures, il s'est battu contre des géants, machin, etc. » Mais on saute par-dessus. Bah là, le film en profite pour rajouter quelques embûches sur son parcours. Il y a une scène avec Sainte Winifred aussi, dont l'histoire a aussi un thème de décapitation. Et de vertu qui fait une apparition dans le film, qui là est une invention des cinéastes. Mais globalement, ça va suivre ce qu'on a vu dans le roman, un chevalier vert qui se pointe à la cour d'Arthur, qui invite les gens à lui porter un coup et en échange, il en portera un autre. Le discours du chevalier vert, il va parfois citer très littéralement le roman, donc il parle d'une manière assez archaïque, ce qui est pratique pour citer le roman. Et un an après, Gauvin doit aller le retrouver, et c'est ce qu'il fait. En un mot, on suit vraiment l'histoire du film. À ceci près qu'on va... on vous avait dit qu'il y avait un twist final dans le roman. Là, on va essayer de le présager dès le début et en fait de ne pas... c'est un film à 24, donc il faut être un peu intelligent quand même. On va présager le twist dès le début et ensuite on va pas faire le twist et on va laisser le spectateur essayer de l'interpréter par lui-même. Donc Gauvin commence, c'est un jeune homme un peu dissolu qui se réveille un matin, il aime bien faire la fête, il retrouve pas ses vêtements dans le château où il est, où il a fait la fête.
Donc c'est le matin de Noël, Gauvin se réveille dans un... C'est pas chez lui, je pense que c'est censé être un bordel ou une maison de passe ou en tout cas un endroit où il a couché avec une jeune femme qui s'appelle SL. Il essaie de la payer d'ailleurs et elle lui dit non, fais-moi ta dame plutôt que de me payer. Et puis lui, il évade un peu comme ça. Il est réveillé, il n'arrive pas à trouver ses vêtements, il les récupère.
Elle lui demande s'il est déjà un chevalier, s'il a déjà été fait chevalier.
Ouais, c'est ça. Et il lui dit bah non, pas encore. Et il rentre chez lui, donc enfin à la cour du roi Arthur. On est dans une Bretagne très Camelot compatible. C'est vraiment l'état de pierre, le château très rustique. On est vraiment dans une espèce d'esthétique au Moyen Âge, un peu dernière saison de Camelot quoi. Et à la cour, il est accueilli par sa mère Morgane. Donc là, explicitement Morgane. Enfin, c'est pas explicitement Morgane dans le sens où on ne dit pas son nom. Les seuls noms de personnages qu'on prononce, c'est Lancelot. Lancelot est évoqué, mais pas dit. C'est Gauvin, SL, et puis je crois qu'on dit le nom d'Arthur un moment, mais on dit même pas le nom de Guenièvre, par exemple. Mais c'est un personnage ce qui est censé être Morgane. C'est dans les crédits, le cast du film est explicitement. C'est pas explicitement Morgane. C'est Mother.
Oui, en fait, il utilise très peu les noms. Puis même Arthur, je crois, la plupart du temps, il l'appelle juste le roi.
Le roi. Et le film, le personnage de la mère de Lancelot, le personnage de la mère de Gauvin n'est pas nommé explicitement, même dans les crédits, elle s'appelle Mother, mais c'est plus ou moins censé être Morgane ou peut-être Anna, mais enfin, elle est en tout cas des pouvoirs magiques, donc on peut penser plutôt du coup à Morgane. Elle le gronde en fait pour avoir découché, et il se rend à un festin de la table ronde. C'est le matin de Noël, c'est la fête. Gauvin est invité à s'asseoir à la droite du roi.
Alors que sa mère ne veut pas s'y rendre parce qu'elle ne se sent pas bien.
Ouais, voilà, elle dit que je suis pas bien et elle l'envoie au repas. Et Arthur l'invite à s'asseoir à côté de lui. Il est clairement présenté comme un peu son héritier, enfin en tout cas son proche de lui, même si Gauvin n'a pas encore explicitement fait ses preuves. Il est encore jeune. La plupart des chevaliers sont présentés comme plus âgés. Arthur est vieillissant, on l'a dit, hein, il a l'air faible, un peu émacié comme ça. Et il est.
Et il regrette de pas plus connaître Gauvin. Enfin, il lui dit viens t'asseoir près de moi, etc.
Il y a une distance.
Il dit c'est dommage, tu es de mon sang. Voilà, et puis, en fait, je saurais pas. En fait, il dit voilà, je te connais pas plus que ça, c'est dommage.
C'est aussi une manière de renforcer la distance entre Gauvin et les chevaliers. L'implication, c'est qu'il passe son temps à coucher. Il n'est pas vaillant comme un chevalier. Il passe pas du temps à la guerre avec Arthur. Il mène son propre petit train de vie et il n'est pas vraiment connecté à Arthur comme ça. Et pendant ce temps, pendant le repas, la mère de Gauvin prépare une espèce de rite qui a l'air d'invoquer le chevalier vert assez explicitement. En fait, c'est comme tu disais, le twist du fait que ce soit Morgane qui est censé invoquer le chevalier vert. Là, c'est explicite. Littéralement, il y a un rituel. Elle se bande les yeux. Elle invoque avec une branche le chevalier vert qui vient. Le chevalier tend une lettre à la reine quand il arrive dans la salle de la table ronde. Et c'est elle qui la lit, en fait, avec la voix de Morgane derrière qui parle, voilà. En fait. Il y a le côté un peu, on a l'impression que ça l'affecte effectivement assez fortement, donc c'est peut-être un peu l'allusion au fait que dans le roman original, c'est présenté comme un complot de Morgane, notamment contre Guenièvre, qu'elle est censée vouloir faire mourir de peur.
C'était terrifier Guenièvre, etc. Bah là, on voit Guenièvre qui lit la lettre et puis qui s'effondre après, comme si elle avait été possédée.
Parce qu'elle est un peu possédée, en fait.
Et puis tout le monde tressaille. Il y a aussi, j'aime beaucoup quand le chevalier vert arrive, qui là est complètement végétal. Hein. C'est très explicite, il est très végétal, il a une face de bois, des plantes, etc. J'aime beaucoup qu'on voie Merlin, qui n'est pas nommé non plus. Mais il y a juste Arthur qui regarde Merlin qui ferme les yeux, qui perception check. Puis il fait non, c'est bon. Enfin, il fait juste un signe pour dire non. Genre, puis Arthur se dit bon, ok, ça va. Le sous-entendu étant, on dirait que c'est Arthur qui essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose de plus sinistre ou de démoniaque ou autre chose derrière. Et Merlin, qui est juste vieux barbu, ouais, avec des tatouages sur le visage, qui silencieusement dit juste non, c'est bon.
Ou alors peut-être un manière de dire non, ne t'inquiète pas, c'est pas pour toi, en fait. Et j'ai l'impression que quelque part, on pourrait voir là-dedans une espèce de signe que toute l'affaire est en fait un truc qui concerne exclusivement Gauvin. Que c'est pas un complot de la reine, pas un complot contre la reine ou Arthur comme dans la version originale, c'est plutôt un test pour Gauvin que sa mère lui fait passer.
Ou peut-être que...
On peut penser que sa mère a des visées sinistres, ouais, ou pas, mais peut-être que ça ne concerne pas directement Arthur.
Ça va être un peu l'allusion qui va être faite. Et puis aussi, peut-être que Arthur a l'habitude de ce genre de choses, parce qu'il dit à Gauvin « Remember, it is just a game », enfin, rappelle-toi, c'est juste un jeu. Ce qui n'est pas vraiment le ton du roman, où on l'avait dit dans le roman, Arthur dit « mets-lui un bon coup, comme ça, t'auras pas à subir son coup. » Enfin, Arthur est beaucoup plus offensif. Là, Arthur dit à Gauvin, te laisse pas non plus trop emporter.
Il a l'air d'être assez amusé par la situation, en fait, quelque part.
Et
même si ça a l'air plus terrible que dans le roman, ça a l'air de le moins l'affecter, quelque part.
Et il se propose de... Donc, tous les chevaliers ont un peu dégainé leur épée quand le chevalier vient arriver, etc. Mais personne veut se prêter au défi. Et Arthur est clairement trop vieux pour ça, quoi. Il arrive à peine à dégainer son épée, quoi.
Et je me demande s'il n'y a pas aussi un truc... Parce qu'il fait une allusion à un chevalier, quelqu'un qui n'est pas là. Et on peut penser que c'est Lancelot ou peut-être quelqu'un d'autre. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a comme une différence entre l'Arthur guerrier qui se bat, qui a des inquiétudes tout à fait prosaïques, qui se bat contre, je sais pas, des Saxons, des rebelles ou des trucs comme ça, et le côté un peu mystique, un peu aventureux, et que Arthur, il est un peu blasé par le côté aventureux, ses inquiétudes, c'est plutôt du côté justement politique, et que du coup, Gauvin, qui est encore jeune, il doit lui dire bon, ça, c'est pour toi, c'est une aventure, mais t'inquiète pas, c'est qu'un jeu, quelque part. C'est pas la réalité du règne, c'est pas le ce qui fait un roi, c'est pas les aventures, c'est le royaume, c'est les considérations politiques. Et je me demande s'il n'y a pas aussi un peu cette possibilité-là,
oui,
quelque part.
Parce qu'en tant que le roi des aventures, il y a aussi ce côté très ludique, je refuse de manger tant qu'on n'a pas une aventure qui arrive à table, etc. Ou ça peut être pris au sérieux, mais c'est pas pris comme quelque chose qui va plus porter à conséquence que ça. C'est un divertissement de la cour, quoi.
C'est ça.
Du coup, Gauvin, cette fois-ci, petite différence avec le livre. Normalement, Gauvin le décapiterait avec sa propre hache. Il prendrait la hache du chevalier et il le décapiterait. Mais là, il va lui couper la tête avec l'épée d'Arthur, en fait. Avec l'épée d'Arthur, et c'est un truc qui va revenir après où il va dire « Le roi t'a passé son épée, etc. » Et plus tard, dans une taverne, on va avoir quelqu'un qui va par contre raconter la version. Il va dire « Et puis là, il a pris la hache du chevalier vert et il lui a tranché la tête. » Donc il raconte la version du roman, alors que là, ils ont changé le fait qu'Arthur lui passait Excalibur. C'est aussi un truc qui se trouve dans la tradition arthurienne, comme on l'a vu régulièrement, dans les romans de chrétiens. C'est plutôt Gauvin qui a l'épée d'Arthur, en fait, en tant que son héritier. Dans la scène dans le Lancelot propre, dans la scène de la fausse Guenièvre. Alors, on a dit qu'il y avait deux versions, hein, mais dans une des versions, c'est Gauvin qui est un peu le gardien du royaume pendant qu'Arthur est enchanté et avec la fausse Guenièvre, et il transmet l'épée d'Arthur à Lancelot pour le duel qui doit sauver Guenièvre. Donc, c'est le fait qu'Arthur lui passe son épée, c'est un truc qui est souvent utilisé dans les romans médiévaux pour symboliser cet héritage.
Et puis quelque part, ouais, c'est présenté ici parce que ça fera partie c'est important dans la suite du film, enfin vers la fin du film, de montrer que Gauvin est l'héritier naturel d'Arthur. C'est renforcé par le fait que là, on le montre exactement de la même façon comme tu disais. Je pense qu'il y a aussi une symbolique d'utiliser une épée plutôt qu'une hache. Ça fait rentrer Gauvin du côté justement des chevaliers. Ça le fait passer. C'est un préadoubement quelque part. Il reçoit une épée et il va faire une tâche de chevalier. Alors que utiliser la hache et se faire redécapiter par la hache, c'est un côté un peu plus jeu contenu. Alors que là, c'est clairement un truc de plus symbolique pour Gauvin que de participer à un jeu parmi d'autres.
Mais du coup, le chevalier, vous imaginez bien, ramasse sa tête. La tête dit « One year hence, on se retrouvera ».
C'est la première fois qu'il parle, d'ailleurs.
Avant, il communiquait un peu par signe. Donc, du nouveau, il se met à genoux, il penche la tête pour... il incline la tête pour l'inciter à lui couper la tête. Mais il récupère sa tête, il parle, il s'enfuit en riant. Et puis, ensuite, Gauvin continue sa vie dissolue pendant apparemment presque un an. Et un jour, en rentrant dans une soirée, dans une taverne, sa mère est traitée de sorcière, je crois, et puis il se bat contre quelqu'un. Il rentre chez lui et il voit que Arthur est en fait en train de visiter sa mère, donc là, qui est la sœur d'Arthur. Et il lui parle, est-ce que tu as pensé à ce que tu allais faire un an après, le délai d'un an s'approche, Noël approche de nouveau, est-ce que tu as pensé à ce que tu allais faire? Et puis il dit, je pensais que c'était juste un jeu. Et Arthur qui dit, oui, c'est un jeu, mais il n'est pas fini. Donc il faudra que tu... Puis il dit, je vais essayer d'aller il faudra que j'aille le trouver, etc. Puis là, il y a ce problème qu'on avait vu dans le fameux roman, où c'est, comment tenir cette parole alors que on peut pas forcément exiger de quelqu'un de retrouver quelqu'un qui a pas un emplacement très précis. Bon, alors il sait qu'il y a la chapelle verte, mais du coup il doit se décider si oui ou non il va partir dans cette quête, quoi. Surtout qu'on voit que sa réputation, ça a fait sa réputation, donc les gens dans les tavernes racontent son histoire. On voit le passage du temps à travers un petit spectacle de marionnettes qui montre l'année s'écouler avec une roue des saisons qui reprend des manuscrits médiévaux. Et d'ailleurs, c'est un truc que je trouve intéressant, le fait qu'on ait ce cliché maintenant que le monde médiéval, il a forcément du théâtre de marionnettes, comme dans Kaamelott, les poupies qui sont associées à la matière de France souvent, donc l'histoire de Charlemagne, de Roland, etc., qui là, du coup, sont devenus un des clichés du genre, quoi, où il faut avoir la scène la scène méta où des gens racontent l'histoire que t'es en train de voir dans l'histoire, et du coup, ça va être dans Kaamelott, soit ici dans Green Knight. Et d'ailleurs, Dev Patel va être dans un autre film où il y a ce cliché que j'aime beaucoup, c'est Monkey Man, où il joue une espèce de John Wick, un type qui va se lancer contre la mafia et trucider des gens, mais qui est inspiré par l'histoire de Hanuman, où le thème, c'est un peu, d'après le trailer, où c'est sa mère lui racontait l'histoire du dieu singe Hanuman qui défend les pauvres et les opprimés. Et dans le trailer, tu as une petite scène du combat entre Hanuman et le démon. Donc je trouve intéressant que Dev Patel au carrefour de... Tu peux faire un diagramme de Venn des films de Dev Patel, théâtre de marionnettes sur une légende fondatrice.
Protagoniste.
T'as aussi l'intersection avec Kaamelott, problème d'érection. Qui sait ? C'est là que tu vois que c'est un film...
Oui, parce qu'il est... On nous présente un Gauvin qui arrive pas à la maintenir droite. On nous dit explicitement qu'il n'est pas super... Il a un peu de peine de ce niveau-là.
Mais oui, d'ailleurs, c'est là que tu vois que c'est une œuvre moderne. C'est comme Kaamelott. C'est que si ton personnage arthurien a des problèmes d'érection, c'est là que tu vois que c'est une œuvre mature. C'est ça, là. Il y a deux choses qu'il faut pour une œuvre arthurienne moderne bonne. C'est problème d'érection, pour avoir un commentaire sur la masculinité. Et puis, il faut que Merlin soit un vieux mec à barbe blanche. C'est la garantie, parce que si tu fais un Merlin qui est juste un mec de 30 ans avec un blouson en cuir, ton histoire part très très mal. Il faut que ton Merlin ait une...
Ça va dans Excalibur.
Ouais.
Mais cela dit, il n'y a pas non plus beaucoup de performances.
C'est un peu l'exception. Le design de Merlin est clairement pas la qualité première de Excalibur. Mais donc, Gauvin va se mettre en route. Et là, il y a cet élément que je trouvais qui joue avec nos attentes, c'est qu'il va être équipé. Par sa mère, il va avoir un peu être équipé par les deux. On voit que sa mère est, apparemment ses sœurs sont des sorcières comme ça, et donc elles vont lui faire une ceinture en lui disant tiens, cette ceinture, elle a un charme, elle est verte évidemment, et elle va te protéger. Si tu la portes, il y a rien qui pourra t'arriver. Et de l'autre côté, il a aussi un bouclier avec la Vierge Marie dessinée à l'intérieur, donc il est un peu protégé de la manière un peu officielle chrétienne et de la manière magico-païenne qui est plutôt associée à sa mère. Et forcément, si vous connaissez l'histoire de base, ça joue un peu avec vos attentes, parce que là, bah, je sais qu'il y a une ceinture d'invincibilité, mais ça vient beaucoup après. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça renforce l'idée que tout ça est un peu une mise en scène organisée par sa mère, quoi.
Il a, comme tu disais, il a ce bouclier avec la Vierge. Ça, c'est un truc qu'on associe plutôt avec Arthur, traditionnellement. C'est mentionné dans chez Lénius, déjà, je crois. Et c'est quelque chose qui ne correspond pas exactement à la version originale donc, de Gauvin Chevalier Vert, où il a plutôt un espèce de pentacle rouge ou doré sur fond rouge. Je ne sais plus exactement quelle est la combinaison. Doré sur fond rouge, je crois. Qui est le sceau de Salomon, ou quelque chose comme ça, dans la version... avec les cinq vertus, enfin, toute une symbolique aussi liée à la Vierge, hein, mais là, c'est plus explicitement, voilà, je pense que c'est, visuellement, c'est plus, ça fait un peu plus médiévalo-mystique d'avoir la Vierge à l'intérieur du bouclier que les étoiles.
Et donc, Gauvin part. L'autre thème, donc on vous l'a dit, interpréter le Chevalier Vert comme un démon de la végétation ou un esprit de la végétation, c'est assez courant comme interprétation, évidemment, même si c'est pas toujours tout expliqué. Disons, il y a toujours une autre explication possible quand on lit seulement le texte, mais c'est une interprétation très populaire. Et ça va être un peu le thème central du film qu'ils vont faire. C'est que le Green Knight n'est pas seulement un... pas seulement la végétation, mais disons une espèce d'esprit de la nature, et aussi, on va dire, du côté impitoyable de la nature, aveugle de la nature. Et ça va vraiment jouer, et je trouve qu'il se débrouille assez bien pour en tirer un sens. Mais du coup, Gauvin il est suivi par des enfants qui l'acclament un peu, il se fait passer pour un simple voyageur, il traverse les résultats d'une bataille, enfin un champ de bataille. On a vu des gens qui abattaient des arbres. Donc il y a un peu ce côté qui visuellement ça peut augurer du mal pour Gauvin, parce que bon, on voit des gens utiliser une hache, donc on se dit ça augure ce qui va se passer après, et en même temps ça fait le thème justement de l'homme contre man, l'homme contre la nature, et
sachant qu'il se trimballe toujours la hache, en fait pour le coup le Green Knight lui a laissé, le Chevalier Vert lui a laissé sa hache. Et donc il la prend avec pendant sa quête, une hache qui a l'air un peu d'être à moitié avec une lame en bois un peu, ou alors elle est très rouillée, mais enfin en tout cas elle a l'air de couper beaucoup, et d'ailleurs Gauvin va pas l'utiliser pendant le reste du film, pas vraiment en fait, il va pas se battre avec.
Ouais, elle a l'air un peu alors à moitié elle a un aspect un peu fantastique parce qu'elle est un peu trop grosse pour être une hache, et à moitié je trouve un peu dommage, elle a un peu l'air en plastique, quoi. C'est ça qui est...
Il y a un peu le côté objet de quête, quoi. Amène ça là.
Et il trouve justement des gens qui... Un jeune pilleur, enfin quelqu'un qui fait les poches des cadavres, etc., qui...
qui est joué par Barry Keoghan, donc la star de Saltburn, là, récemment, qui, là, pour le coup, n'est pas tout nu, comme il aime se montrer apparemment maintenant, c'est sa réputation, mais qui joue déjà sur son côté un peu irlandais effrayant.
Ouais.
Oui, irlandais inquiétant plutôt qu'effrayant.
Il lui dit, ouais, il y a eu une super bataille, le roi Arthur, il a tué 960 types à lui tout seul. Moi, si j'étais là... Alors, et puis il dit que ses frères sont morts à la guerre, mais que s'il était là, lui, il aurait survécu, donc c'est un peu triste. Et il lui dit, oh, la chapelle verte, oui, elle est vers la rivière là-bas, tu vas là-bas, tu suis la route et tout. Et puis il dit, ouais, mais vous pourriez quand même être... Enfin, je vous ai donné un renseignement, vous pourriez quand même me redonner quelque chose, quoi. Puis il dit, bon, il balance quelques pièces de monnaie, et il suit son chemin, en n'étant clairement pas de très bonne volonté. Et en fait, il tombe dans un piège, c'est-à-dire que, sans surprise, le méchant pilleur n'était pas très confiant. Des gens s'emparent des trousses Gauvin, en le menaçant avec une arme, le ligotent sur le sol... joue avec son bouclier, il casse son bouclier, je crois, en sautant dessus. Il joue avec la, il y en a un qui prend la hache à son cheval et qui se barre, et puis Gauvin est ligoté, bâillonné, en train de s'agiter par terre. Et on a une scène assez méditative où on voit la caméra qui tourne sur la forêt et qui revient, et on voit Gauvin décomposé, quoi, qui est devenu un squelette attaché comme ça. Donc voilà, fin du film. Bon, c'est plutôt audacieux, mais non, et puis. Il arrive à se trancher ses liens en s'abîmant les poignets avec son épée. Il arrive à s'enfuir. Bon, forcément, il a perdu, comme tu dis, son objet de quête, la hache. Mais bon, il part à pied. Il se retrouve dans un marais, c'est la nuit. Bon, c'est un peu... voilà, il a eu son inciting, pas inciting accident, mais il a été détourné de sa voie. Il se retrouve dans le royaume de l'aventure. Et ses ennuis vont vraiment pouvoir commencer.
Il tombe sur une espèce de ferme ou un bâtiment, en tout cas, où il va pouvoir s'abriter pour la nuit. Et il va se coucher dans un lit. Il va commencer à dormir un peu pour se reposer. Et c'est là que va intervenir Sainte, une personne qui s'appelle Winifred, qui est en fait qui va se révéler être Sainte Winifred, donc la sainte galloise. Alors ça, c'est un épisode qui est inspiré simplement d'une mention dans Gawain le Chevalier Vert. En fait, on nous dit qu'il chevauche dans tout le nord du Pays de Galles. Il laisse à sa gauche les îles d'Anglesey, donc qui sont à l'extrême nord-ouest du Pays de Galles. Et il passe par un endroit qui s'appelle The Holyhead, sur le chemin, et puis après il va dans le Wirral. Alors le Wirral, c'est une péninsule qui se trouve actuellement à côté de Liverpool, donc là pour le coup on est plutôt du côté de l'Angleterre. Et Holyhead ici, c'est pas Holyhead justement près d'Anglesey, c'est un endroit qui s'appelle Holywell, on pense en tout cas que c'est ça dans le poème original, qui est un lieu donc pas loin de Chester, qui est associé à la légende de Sainte Winifred, qui est une sainte du 6e, 7e siècle, qui aurait été décapitée par un amant éconduit, ou par un homme. Alors là, dans le film, elle va nous dire, c'est clarifié, c'est un homme qui voulait la violer, tout simplement. Mais dans la version originale, c'est parce qu'elle voulait se faire nonne, en fait, je crois. Et c'est un païen qui la voulait pour épouse, qui la décapite, ou alors un ex-amant. Je ne sais pas s'il y a plusieurs versions, mais j'avais entendu la version que c'était
un prétendant,
quelqu'un qui s'appelait Caradoc, je crois. Un prétendant, en tout cas, elle est décapitée, et son frère réunit sa tête et le reste de son corps. Et là, en fait, Gawain va trouver ce fantôme, en fait, qui va lui demander « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et il est présenté, elle lui demande « Êtes-vous le chevalier qui va, répondre à ma quête ?» Et il lui demande « Qu'est-ce que j'aurai en récompense ?» Donne-vous un peu comme le pillard lui avait dû lui rappeler de lui donner quelque chose comme récompense pour l'avoir aidé. Bah là, pareil, il demande tout de suite sa récompense. C'est pas un bon comportement de chevalier. Et elle est extrêmement offensée. Et elle lui répond pas, mais il va le faire. Il va aller dans une source à côté. Elle lui demande pas explicitement de récupérer sa tête. Elle lui dit, va récupérer ce que j'ai perdu. Et il va dans la source, il plonge et il tombe sur sa tête, justement, sur son crâne. Et il le réunit à son corps, donc dans le bâtiment où il était. Et le lendemain, quand il se réveille, il voit sa hache. L'âge du chevalier vert posé à côté de là, donc elle l'a aidé de cette façon-là.
Il reprend le crâne et il l'amène à l'étage. La scène, ça commence que justement il s'était endormi dans le lit, puis elle lui dit mais qu'est-ce que vous faites dans mon lit, puis il se réveille, puis il dit oh pardon, je savais pas que c'était habité, etc. Puis du coup, quand il revient dans le lit et qu'il veut poser la tête, bah il y a dans le lit, il y a un squelette, et il regarde la tête qu'il y a dans ses mains, et puis ça redevient la tête bien en chair, tête vivante de Winifred. Il la lâche, elle tombe par terre, et elle lui dit The Green Knight is someone you know. Donc ça renvoie au fait que, en fait, le Green Knight, c'est sa mère, même s'il n'y a pas un moment où le film va le dire plus explicitement que ça. Du coup, Gawain peut reprendre sa quête une fois que le jour s'est levé. J'aime beaucoup l'humour de cette scène entre Dev Patel et puis ce fantôme, où à un moment, il se demande, est-ce que c'est un fantôme, puis il tend la main pour la toucher, puis il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Puis il fait, non, mais ne me touchez pas. Et puis...
quand on le dit comme ça, quand je décris la scène, c'est vrai que c'est effectivement très mécanique, mais c'est, comme tu dis, c'est très contemplatif, on comprend pas bien d'où ça veut en venir au début, elle apparaît très soudainement, c'est... Comme tu dis, le film est très prend son temps sur chaque moment.
Mais moi,
la scène de la quête du crâne prend un moment.
Plongée. Alors évidemment, comme c'est, j'étais un peu. Je trouve qu'il y a quand même une facilité de la scène où le héros va plonger sous l'eau et puis il va pouvoir être montré en train de nager sous l'eau lentement pour montrer que c'est un peu introspectif et contemplatif, comme si on était dans le générique de Vikings. Enfin bon, il faut profiter des occasions cinématographiques, mais je trouve que une des forces du film, c'est de revenir un peu sur les thèmes très simples de Gawain et le Chevalier Vert et de proposer un peu différentes gammes, enfin jouer sur cette gamme. Typiquement, le thème Do ut des, donc donne et je te donne, où on a eu le pillard qui dit je t'ai donné un renseignement, donne-moi de l'argent, et puis ensuite il le détrousse parce qu'il dit c'était pas assez d'argent pour le renseignement. Et là, Gawain qui dit, lui dit va chercher ma tête, puis il dit ok, mais qu'est-ce que j'ai en échange? Et donc, il y a un peu ce thème qui revient de donner un coup au chevalier, il te redonne un coup, je donne, tu me donnes. Et puis, cette question de, est-ce qu'on fait des choses parce qu'on obtient quelque chose en échange? Ou bien est-ce que, comme là, elle dit, un chevalier ne devrait pas demander quelque chose pour rendre service, quoi?
Et d'ailleurs, on est quoi à ça? Dans le récit de Gawain le Chevalier Vert, il y a un triple don qui se passe chez Bertilac. Là, il n'y en a qu'un seul de don chez Bertilac. Et tu peux lire effectivement les deux autres dons comme ces deux épisodes-là. Le don du renseignement et la récompense monétaire, l'échange de la tête contre la hache, et le dernier échange de dons à proprement parler. quoique il est multiple, parce que c'est un peu confus, parce que aussi on va y revenir, mais il y a une espèce de multiple échange dans le chez Bertilac, mais ça peut, tu peux voir les trois éléments comme cela, quoi. Et donc il va effectivement quitter l'ermitage ou la source de Sainte Winifred ou de Winifred, parce qu'elle n'est pas présentée comme sainte, il n'y a pas de passif chrétien qui est présenté, c'est juste une jeune femme qui a été violée en fait et tuée. Et donc,
on l'a pas dit, mais il y a
je crois pas qu'elle est présentée
explicitement
comme sainte.
On l'a pas dit, mais il y a des titres qui s'affichent sur l'écran du film pour séparer les différentes parties. Et la section s'appelle quand même A Meeting with Saint Winifred, je crois. Donc, on mentionne que c'est une sainte.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a le titre. C'est comme ça. Mais elle est pas explicitement présentée comme chrétienne ou païenne.
Pas dans le film, mais le titre de la section nous dit quand même, nous fait quand même allusion.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que le film est chapitré. Alors, le livre original n'a pas de ce chapitrage par titre, mais il y a ces quatre fêtes traditionnelles. Bah là, c'est cette structure avec effectivement ces titres. Et d'ailleurs, comme le film, on l'a pas mentionné, mais tout au début, le film s'ouvre aussi sur une narration d'un narrateur qui raconte la quête du roi Arthur et qui dit c'est pas cette histoire-là, c'est l'histoire de Gauvin. Et ça fait aussi un peu écho d'ailleurs à l'ouverture du récit qui s'ouvre sur le big picture de la guerre de Troie, la conquête de la Bretagne, et puis après Arthur et finalement Gauvin. Bah, il y a ce processus de zoom-in aussi un peu simplifié qui se... Donc la structure générale est aussi assez proche, ou en tout cas évoque celle du récit. L'étape suivante, c'est concentre un peu les quelques aventures qui sont décrites vaguement dans le poème.
Il se bat contre des géants, c'est pas très important, on va revenir, on passe très vite dessus.
Les Woodwows, qui vont devenir les Woes de Tolkien, les hommes des bois du retour du roi, dans Le Seigneur des Anneaux. Là, Tolkien les traduit comme des trolls des bois ou des trolls des collines, je sais plus exactement, mais c'est Woodwows, c'est un peu des géants ou des êtres magiques. Il y a des espèces de géants un peu à la Attack on Titan. Ça m'a rappelé un peu ça dans l'esthétique. Ces espèces de géants CGI qui prennent Gauvin. Et ça m'a aussi un peu évoqué le film Le Hobbit qui interprète très littéralement les géants qui s'échangent des rocs pendant l'épisode qui est censé être une métaphore pour de l'orage.
C'est un passage qui n'est pas très clair.
Quand Bilbo et les nains.
Où Tolkien dit, il parle de l'orage quand il zigzague dans les montagnes avec les nains et puis il dit on croirait que, je ne sais plus ce que c'est la phrase en anglais, mais on croirait que des géants se balançaient des rochers à la gueule. Et puis dans le film The Hobbit, ils ont dit il faut qu'on fasse trois films de trois heures, ça va devenir des vrais géants.
Donc il y a des géants qui vont s'envoyer des rochers. Là, il y a des géants,
de pierre qui se balancent des rochers. Ça commence en fait. On voit un truc, c'est que je crois qu'on a oublié de dire, mais il y a une scène qu'on voit d'ailleurs un peu en flashback où il est avec SL et que quand il fait ses préparatifs de départ, elle lui donne une espèce de grelot pour qu'il se rappelle d'elle. Mais elle aimerait qu'il s'engage envers elle, qu'il lui fasse la promesse qu'il va l'épouser, etc. Puis lui, il a clairement des problèmes d'engagement. Il a des problèmes à s'engager là-dedans.
Ah oui.
Mais il trimballe son petit grelot. Avec elle, il va la perdre à un moment sous peu. C'est très symbolique.
Il est accompagné d'un renard.
Dans une grotte, il y a un renard qui vient. Il essaie de le chasser. Puis finalement, il se dit non, finalement, viens. Et le renard va l'accompagner. Et c'est comme ça que c'est avec lui qu'il va voir les géants, où il arrive un peu sur un promontoire, une colline, et il voit des énormes silhouettes dans la brume à l'horizon de géants qui vont vers l'horizon, on ne sait pas trop pourquoi, comment, et il essaye d'attirer leur attention. Le renard arrive à les appeler, et il y a une géante qui les regarde, mais qui n'a pas l'air de comprendre, pas l'air de trop comprendre comment communiquer avec eux. Enfin, ils s'arrêtent et tout, mais...
Il n'y a pas un combat à proprement parler. Non, ils ne se battent pas contre les géants.
C'est pas les géants, mais du coup, il y a une géante qui le voit, qui essaye de l'attraper. Alors, il rechigne contre ça. Enfin, il se manifeste. Puis le renard a l'air d'intervenir. Et puis, alors, tous les géants se mettent à chanter un peu. Enfin, à raisonner comme ça, de manière un peu énigmatique. Et puis, ils partent. Bon, alors, l'épisode... Il y a un peu un sens, il essaie un peu de renouer un peu avec un sens, on va dire, du merveilleux. Qui fait pas forcément beaucoup avancer le schmilblick, parce qu'on se dit qu'est-ce que ça apporte, mais évidemment ça fait partie un peu de l'attrait de ce qu'on peut faire dans ce genre d'histoire.
Quelque part, c'est un peu le symbolique du fait qu'on est complètement passé de l'autre côté du miroir, entre guillemets. On a quitté le royaume connu des hommes, qui pouvait être encore là avec les pillards, qui était peut-être en partie là avec Saint Winifred, mais là on est clairement passé dans le royaume un peu de féerie, en fait, comme dirait Tolkien. Et ça va être illustré par le fait que les prochaines personnes qu'on va rencontrer, c'est ce qui dans le roman est appelé au désert, le château de Bertilac. Et ils tombent dessus juste avant Noël, comme dans le roman. Et ils tombent effectivement sur un château, il y a un homme, un seigneur. Alors il n'y a pas autant de servants, on ne voit pas beaucoup de servants. Il n'y a pas tout le personnel qui est décrit dans le roman. On ne voit que le chevalier, donc il n'est pas nommé, le seigneur. qui est joué par Joel Edgerton, qui n'est pas le même acteur qui joue, et c'est aussi un truc qui est un peu, pas directement du foreshadowing, mais c'est pas le même acteur qui joue le Chevalier Vert. Alors que dans le récit, ils sont explicitement présentés comme la même personne. Là, il y a quand même cette différence, c'est ni le même acteur qui fait le visage, ni la voix. Et ça, la dame, qui est incarnée pour le coup par la même actrice, et c'est un peu la subversion qui est là quelque part, par Alicia Vikander, qui est l'actrice qui jouait celle, donc la maîtresse, l'amoureuse de Gauvin. Et ils sont accompagnés, comme dans le roman, par une vieille dame, qui pour le coup, elle a les yeux bandés, elle parle pas. Donc c'est un peu une différence avec le roman original, où elle est pour le coup assez... elle parle, elle a se comporter plus ou moins normalement, elle est juste très laide et très vieille. Là, elle est pas spécialement laide, mais elle a les yeux bandés. Comme la mère de Gauvin, qui s'était bandé les yeux pendant le rituel pour invoquer le Chevalier Vert. Donc on peut penser, on peut peut-être y voir la mère de Gauvin qui, pour manifester le...
Il y a autre chose qui l'a réunie à la mère de Gauvin et à d'autres personnages, mais on a oublié de le dire, mais on le mentionnera après. Un truc qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un côté un peu à la fois merveilleux, mais aussi un côté un peu naturaliste par moment dans ce film. Donc on va voir un peu les techniques. On avait dit, il y a basiquement de la photographie dans ce film, mais malgré le contexte médiéval. Mais aussi, par exemple, dans ces scènes d'errance où Gauvin est extrêmement affaibli, il y a un moment où il mange des champignons manifestement hallucinogènes qui peuvent aussi, si on veut, avoir une espèce d'explication naturaliste de ce qui se passe, l'expliquer.
Oui,
mais c'est vrai que j'aimais bien la vieille dame du château parce que c'est pas vraiment adressé, personne n'en parle, personne ne la...
Elle n'est pas... Personne n'interagit avec.
Personne n'interagit avec, personne n'ose poser la question.
Il y a juste Gauvin qui vaut la voix, en fait.
Ce qui est assez...
On n'aime pas laisser les autres la voix.
Ouais, c'est ça. Mais c'est relativement réaliste de ce côté-là, alors que c'est vrai que... Moi, quand j'ai lu Sol Gawain and Green, j'aurais absolument pas fait le lien entre elles. Et même quand, à la fin, ils disent « Oh, il y a Morgane qui vit dans mon château », j'ai même pas fait le lien avec le fait que c'est censé être cette femme-là.
La vieille dame.
Mais du coup...
Non, et là... C'est beaucoup plus sinistre parce qu'on la voit, elle est habillée tout en blanc. La seule différence, en fait, c'est pas la même actrice quoi, qui l'incarne, mais il y a clairement un lien qui est voulu entre ce seigneur, qui vit dans un château d'ailleurs qui est très 14e, 15e siècle, alors que tout le reste de l'esthétique du film est très au Moyen-Âge. Là, on est clairement dans un château. Alors, c'est aussi, je pense, une des conséquences de tu cherches où filmer un endroit qui est possible, mais là, c'est clairement. Pas un château rustique comme la cour d'Arthur, on est dans un truc complètement hors du temps.
Même les livres qu'elle a, les manuscrits qu'elle a, on voit de ces manuscrits, c'est qu'ils ont des formes qui sont pas rectangles, etc. Puis je me rappelle quand je le regardais avec ma tendre moitié, je disais ah bah oui, je crois qu'on voit un livre rond, puis je dis ah bah il y en a aussi des en forme de cœur, puis juste après on voit le livre en forme de cœur, mais qui est plutôt typique de cette période plutôt tardive que on va dire le haut Moyen Âge qui était sous-entendu par l'univers d'Arthur avant quoi.
Et pour moi, il y a clairement une différence, alors que il y a un côté un peu magique chez Bertilac dans le récit original qui est présenté comme, en fait, c'est le Chevalier Vert par les enchantements de Morgane. Là, on a l'impression qu'il est peut-être distinct de Bertilac, mais en tout cas, qu'il soit distinct ou non, il n'existe pas au même sens où Bertilac est, il y a un château bien réel, il a bien une dame, etc. Il se trouve être là où habitent, ils sont pas particulièrement surnaturels chez eux. Là, il y a clairement un truc qui est présenté comme tu es dans le domaine des fées. Ce seigneur, cette dame sont pas des gens normaux, ce sont des espèces d'elfes ou de personnages hors du temps qui peuvent interagir avec des récits de toutes les époques. Elle fait de la photographie, elle va tirer le portrait de Gauvin à un moment, donc ça me rappelle aussi la damoiselle effectivement qui, moi ça m'a fait penser à la damoiselle qui veut décapiter Lancelot, tu sais, celle qui attend où c'est Gauvin qui va chez elle, ou c'est Lancelot qui va chez elle puis elle décapite Gauvin.
Il y a Gauvin, alors il y a plusieurs versions, mais c'est Gauvin
C'est la première continuation ou c'est dans
Perceval? Il y a la première continuation, il y a le Père Lesvos, et puis il y a un troisième que j'ai plus en tête, mais qui est un de ces romans de Gauvin, qui est à mon avis le plus drôle justement, où Gauvin lui dit « mais si Gauvin était là ?» et qu'il vous donnait son amour, est-ce que vous abandonneriez pas cette quête futile ?» Puis il dit « Ah non, mais vous savez comment il est Gauvin, il me dirait ce qu'il a envie pour obtenir son affaire, et puis une fois qu'il m'aurait passé à la casserole, il m'oublierait. » Puis t'as le dialogue intérieur de Gauvin qui dit « Ouais, c'est vrai, je ferais probablement ça, en fait. Mais... »
Non, là, effectivement, il y a le côté un peu, elle lui tire le portrait, elle lui vole sa tête, quelque part. Alors, elle lui tire le portrait avec, comme tu disais, au nitrate d'argent, d'une chambre noire, c'est très... Mais ça reste ce côté, voilà, complètement fantastique. Le seigneur lui fait des lourdes allusions à ce qu'il comprend, ce qu'il est en train de se passer. Il lui explique, bon, alors, comme dans la version originale, vous êtes accueilli, vous allez être bien équipé, on va vous faire dormir ici, vous allez pouvoir aller dormir paisiblement en attendant la chapelle verte. C'est superficiellement, c'est très similaire, mais il y a un côté beaucoup plus étrange, alors que c'est tout à fait attendu, ce genre de péripétie dans un récit arthurien traditionnel. Tomber chez quelqu'un, vavasseur qui va vous héberger.
Plus que paisiblement, parce qu'il s'effondre vraiment en arrivant dans le château, et puis il se réveille nu et lavé, et il sait pas trop, et puis il dit « Ah, il faut que j'aille, j'ai ma quête, etc. » Donc il est quand même assez stressé par le réveil. Mais comme tu dis, cette dame, elle a l'air de connaître des sciences plus ou moins respectables, d'avoir des connaissances assez étendues, une large bibliothèque. Elle veut offrir un livre à Gauvin.
Elle lui vole le grelot de sel. Mm-hmm. D'ailleurs, dès qu'il arrive, elle lui prend. Elle dit « Oh, c'est rigolo, votre petit truc, là. » Elle le lui prend. Et à noter qu'entre-temps, il a perdu sa ceinture qui lui a été volée par les pillards. Et on ne l'a pas mentionné aussi, mais ils lui ont pris tout son équipement, y compris la ceinture que lui a offert sa mère. Et elle la porte, cette ceinture, autour de la taille. Et on le remarque, et alors ça sera, elle va, comme dans le récit original, effectivement, le lui offrir plus tard, après un épisode de séduction. Mais il y a vraiment un côté tout à fait inquiétant qui n'est pas présent dans le récit original. Elle n'est pas présentée de façon particulièrement anormale avant le moment où elle va arriver en face de lui et commencer à essayer de le séduire dans sa chambre, ce qui est un peu hors du commun. Dans le récit en moyen anglais, là, c'est clairement dès le début, elle est très rentre-dedans, elle a un décolleté qui va jusqu'au nombril, elle est vraiment full-on. Et Bertilac, c'est pareil, enfin, le seigneur, c'est pareil, il est vraiment très charme. T'as vraiment l'impression qu'il essaie de le charmer aussi de la même façon, alors que c'est pas spécialement aussi net dans la version moyen anglaise.
Ce que j'ai le plus aimé dans cette version-là, c'est justement que la ceinture, c'est pas quelque chose que Lady Bertilac lui donne comme ça, de nulle part, c'est qu'il la voit, puis il dit, mais. Où est-ce que vous avez eu cette ceinture ? Enfin, il reconnaît la ceinture, puis il dit, mais pas du tout, c'est la mienne, machin.
C'est ma ceinture, c'est moi qui l'ai faite, d'ailleurs. Elle lui dit, c'est moi qui l'ai faite.
Et le truc, c'est que si ces personnages sont vus comme une émanation de Morgane, de la mère de Gauvin, parce que là, alors, spoiler, mais en fait, un truc qu'on voit, c'est que y a une scène où la vieille dame se pointe vers Gauvin pendant la nuit dans sa chambre, elle lui touche le visage et elle part. Et en fait, on peut remarquer que tous les personnages qu'il affronte lui touchent le visage de la même manière que sa mère lui touche le visage, en fait. C'était pareil pour les pillards, c'est pareil pour Lady Bertilac, la vieille dame. Il y a ce côté où, si tu veux voir ça comme un jeu orchestré par sa mère...
Et la géante qui va descendre la main sur lui aussi.
Il y a ce côté... Ou le géant. Parce que je me rappelle des critiques quand le film était sorti, c'est si vous voulez vous regarder deux heures de gens qui pétrissent amoureusement le visage de Dev Patel. C'est vrai que ça revient régulièrement, mais en fait, tu dis, c'est un peu bizarre, mais en fait, quand tu fais le lien, tu dis, ah ben en fait, oui, peut-être que ça fait allusion au fait que tous ces personnages sont fantasmagories, des illusions ou des enchantements de sa mère.
Ou même, ils ont peut-être même leur existence propre, mais en tout cas sont conjurés par sa mère. T'as l'impression que ça donne, c'est un peu que, pour moi, peut-être leur apparence est peut-être liée à Gauvin. D'ailleurs, elle ressemble à SL, ce qui n'est clairement pas un hasard. Mais peut-être qu'il faut voir leur existence comme un peu un truc perpendiculaire à Gauvin. Elle présente les récits. Il y a un moment un peu méta où elle explique à Gauvin que c'est elle qui a lu ou copié la majorité des récits qui se trouvent dans les livres de sa bibliothèque. Et parfois, occasionnellement, elle en change la teneur quand c'est quelque chose qui ne lui plaît pas. C'est aussi une allusion, bien sûr, assez évidente au processus d'écriture du film et à la simple existence d'une tradition manuscrite. Des éléments qui changent, ça arrive tout le temps dans un récit arthurien comme ça. Donc c'est un peu... C'est presque un peu fort, je trouve, de café, de faire le côté wink-wink, mais peut-être qu'on est un peu blasé par ce genre de truc à force.
Bah, du coup, en fait, comme tu disais, elle est très rentrée dès le début. Et quand elle lui donne un livre, elle obtient déjà un bisou un peu timide de Gauvin. Donc il y a encore ce côté do ou death, je te donne et tu me donnes, donnant. Et c'est après ce premier bisou que Bertilac fait le deal, en fait. Donc ils ont déjà commencé à flirter.
Et il lui a déjà offert d'ailleurs un animal. Il revient de la chasse et il lui dit « Ah, j'ai chassé ça pour toi, ça le sert. Je te propose que je vais continuer de nouveau à chasser demain et le jour encore après. » Donc, il y a deux jours qui sont prévus. Je te donnerai chaque fois le produit de ma chasse.
Les échanges, ils commencent donc avant le deal. Donc, c'est aussi ça qui est marrant. Ce qui change par rapport au roman, c'est que normalement, on l'a dit, cette scène où il arrive chez Bertilac, ils sont en train de faire la fête, ils sont en train de fêter Noël, en fait. Et donc, il y a une énorme compagnie, il y a beaucoup de gens, c'est la fête, etc. Là, c'est une compagnie beaucoup plus restreinte. Il y a sa femme, la vieille dame et Bertilac.
On voit pas de servant, il me semble.
On voit pas de servant non
c'est
plus.
C'est aussi un indice qu'il y a quelque chose de magique d'ailleurs. Il y a pas de, ils ont des repas qui sont faits par magie.
C'est ça.
La lessive se fait toute seule.
Mais c'est du coup pas la même dimension où la dimension dans le roman de base, c'est que Gauvin arrive et il pourrait très bien être tenté de se prélasser, de fêter, de laisser passer le jour où il devrait retrouver le chevalier vert. Mais là, cette dimension, elle est pas là. Il peut reprendre des forces. Mais il n'y a pas ce côté...
Hostile. C'est un environnement hostile pour Gauvin, beaucoup plus que
C'est un environnement bizarre, en tout cas. Et du coup, on va avoir les scènes
de séduction, parce qu'il n'y en a qu'une seule, en fait. Contrairement au récit... Enfin, c'est un peu dilué sur son arrivée, elle essaie un peu de le séduire déjà, il y a cette scène dans la bibliothèque où elle va lui tirer le portrait. Mais la principale scène de séduction, alors qu'il y a trois scènes au saut du lit dans la version du récit en moyen anglais, là, il n'y en a qu'une seule.
Il y a une scène de séduction. Avant ça, il y a un moment où on découvre que dans sa grande bibliothèque, la dame a eu l'occasion de lire Pastoureau, parce qu'elle parle elle commence à poser la question « vert comme la nature, chevalier vert, mais vert comme la pourriture, vert... » Non, c'est Gauvin qui dit « vert pour
le... » Ils ont tout un dialogue au coin du feu.
C'est quoi la symbolique de ce film ? Rappelez-moi. Et puis, ils ont un petit discours. Puis Gauvin, il dit, vert comme la...
La pourriture, rot.
Rot. Et puis, elle dit, mais en fait... Et puis, en fait, elle se lance dans un monologue sinistre où elle dit, en fait, il symbolise peut-être la nature inexorable, la mousse, le lichen, qui va recouvrir le monde, quoi qu'on fasse, contre lequel on ne peut pas lutter, qui engloutit tout, qui passe tout, et qui nous angoisse parce qu'il nous fait penser... Enfin, elle a un discours très sinistre, qui a Bertilac de l'autre côté, il est super de bonne humeur, enfin, t'as un peu le côté...
il est complètement... Lui, il est complètement à fond sur Gauvin, il a flashé. Tu sens que c'est rigolo, parce que ça inverse un peu la séduction du récit original, où t'as clairement la dame qui essaie de séduire Gauvin de façon beaucoup plus chaste, Gauvin qui est un peu séduit, et puis Bertilac qui est à peu près neutre, et qui va presque être plus séduit par Gauvin que l'inverse, parce que c'est Gauvin qui lui offre les baisers dans la version originale. Là, t'as presque l'impression que c'est Bertilac, quoi, qui veut séduire de façon plus normale Gauvin, alors qu'elle, elle est complètement très intense, elle est dans cette dimension. Et c'est ça qui me fait penser qu'il y a peut-être faut peut-être pas voir Bertilac, la dame, et je vais arrêter de dire Bertilac, parce qu'il est pas nommé comme Bertilac, et c'est pas exactement le même personnage. Faut peut-être plus les voir comme justement des externalités, des forces un peu intemporelles que la mère de Gauvin aurait conjurées ou en tout cas appelées et qui sont pas issues d'elle. Parce qu'ils ont l'air d'avoir un peu une intentionnalité un peu différente d'elle.
Ouais, une existence.
Et d'ailleurs, son propos est un peu différent. L'idée de renouveau que propose la dame est assez différente de ce qu'on pourrait penser être un but sinistre de la part de la mère de Gauvin.
Ouais, et puis Bertilac aussi demande à Gauvin, mais pourquoi vous allez faire ça ? Pourquoi vous allez vous faire des... Qu'est-ce qu'il y a comme gloire ? Enfin, il lui pose la question au fond, mais pourquoi tu veux faire ça ? Puis il dit, c'est une quête, je l'ai commencé.
Il a un côté très, très dialogue socratique, effectivement.
Pourquoi faire ça ? Puis Gauvin...
Mais dis-moi, Gauvin, qu'est-ce qu'un chevalier ?
Et puis Gauvin, je sais pas trop, machin. Puis il dit, mais vous êtes pas très doué pour la conversation. Enfin, il a pas l'air très... Gauvin, il a pas l'air très assuré. Et puis aussi, Bertilac, pendant qu'il mangeait plutôt, il disait, mais on a entendu vos histoires sur le chevalier vert. Tout le monde en parle dans le pays, on attend que ça. Et puis il lui dit aussi, pareil, la chapelle verte est pas loin pour y aller. Ensuite, ce thème de la nature et de la mort et de l'homme contre la nature, on le voit aussi par c'est des fresques, je crois, pas des tapisseries, mais des fresques du château de Bertilac, où on voit des scènes de chasse qui font écho à sa chasse, mais où on voit aussi une scène apparemment de chasse à l'homme.
Où il y a des animaux à tête d'homme, en tout cas.
Ouais, et
Il y a un animal qui est censé, qui évoque le renard que Bertilac. C'est ça aussi pour ça qu'il y a un renard d'ailleurs. Hein. Le renard, c'est un des animaux que chasse Bertilac.
On avait dit justement, il y avait les trois animaux qui chassaient, qui correspondaient peut-être justement aux stratégies d'évitement de Gauvin. Donc c'est-à-dire le jour où il essaye d'affronter frontalement, c'est plus le sanglier. Le jour où il essaie de ruser, Bertilac chasse un renard, qui est plutôt. Donc peut-être qu'il y a une correspondance entre les deux. Là, ça revient, et puis évidemment avec le thème avec le discours sinistre sur la brutalité de la nature, on a un écho assez fort entre ces deux-là. Mais vient donc la scène de séduction où la dame vient le voir dans son lit. Il essaye vaguement de résister, mais...
Elle lui dit, vous n'êtes pas venu me voir hier soir, pourtant je vous ai donné des indices. Donc effectivement, toute la nuit où il est arrivé, la journée, après son réveil, en fait, pendant toute la journée, elle a essayé de le séduire. La photographie, elle lui prend le symbole d'Essel, elle l'a veillé, c'est tout juste si elle lui fait pas les yeux doux pendant toute la soirée, quand c'est pas son mari qui le fait. Et effectivement, elle arrive et lui dit, voilà, elle monte sur son lit. Et elle le commence à le masturber.
Elle lui dit, mais si tu veux... Puis il voit la ceinture verte et il dit, mais où est-ce que vous avez eu ça? Elle dit, c'est moi qui l'ai faite, machin. Et elle lui dit même... Il y a aussi le côté du don, c'est qu'en fait, si on veut jouer un peu dans la casuistique, elle lui donne pas la ceinture verte, elle lui dit, prends-la, take it. Et puis il la prend pendant qu'il se fait
parce
masturber.
Parce que de la même façon qu'elle l'a agressée, enfin, elle l'a pas, lui a pas laissé le choix. Elle l'a pris en main et elle a pris les affaires, elle a pris la chose en main, d'une certaine façon. Donc après, il y a ce côté aussi de pas d'échange mutuel, quoi.
Et bah alors, c'est assez cru, on voit qu'il a éjaculé sur la ceinture à la fin, et puis elle lui dit « You are no knight, tu n'es pas un chevalier ou tu n'es pas digne d'un chevalier ». Donc il a la ceinture, Gauvin se rhabille, prend sa hache, prend ses clics et ses claques, et se dit « Bon, je vais aller... »
Part en courant.
« Je vais aller voir le chevalier vert ».
Il ah oui, juste un truc, à la fin de la scène d'éjaculation, quand même, une fois qu'elle part en disant « You are no knight », on voit que la vieille dame aux yeux bandés était là dans la pièce pendant tout le long. Hein. Et que Gauvin n'avait pas vu. Parce que toute la scène est filmée de son point de vue. Elle est filmée quand Gauvin est couché dans le lit, donc sur sa gauche. Toute la scène est filmée de cet angle-là, avec la fenêtre, la dame qui arrive. Et quand la caméra se retourne, on voit qu'on était en fait du point de vue de la vieille dame. Voilà, film 101, hein, je sais analyser les thèmes. Voilà, donc effectivement, il part en courant, donc il n'y a pas du tout de scène d'échange comme dans le récit original, on n'attend pas le retour de Bertilac. Et il tombe sur Bertilac, en fait, qui est en train de chasser. Alors, il a tué un sanglier. On voit le sanglier percé de traits. Tiens, Arthur, le sanglier de Cornouailles. Ça, c'est plutôt Kaamelott. Dans Kaamelott, justement, Arthur se moque un peu de ça en disant le sanglier de Cornouailles, alors qu'Arthurus, ça veut dire à la base ours. Mais voilà, il y a un sanglier, donc le troisième animal, le deuxième animal de la chasse est chez Bertilac. Et justement, Bertilac lui dit, mais vous avez rien à me donner. Il est monté à cheval et Gauvin dit, non, j'ai rien trouvé. Et d'ailleurs, auparavant, Bertilac lui avait dit, quand il lui avait fait le jeu, Gauvin lui avait dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien vous donner? Tout ce qui est dans ce château est à vous. Et Bertilac a dit un truc du genre, oh, vous savez, j'arrête pas de trouver des trucs bizarres dans ce château, des trucs que je connais pas. C'est aussi un indice du fait que peut-être lui-même est quelqu'un qui est manipulé ou qui est en tout cas... qui a peut-être une existence propre différente de celle de Morgane ou que Morgane manipule.
Ouais, je dirais que
il n'a pas l'air de savoir exactement d'où il est, en fait.
Je dirais que son lien à la chasse, les peintures un peu étranges, etc., ça laisse penser qu'il fait quand même partie de cet écosystème.
Oui,
même
mais...
Même s'il en présente un autre visage.
Mais peut-être que le haut désert... Enfin, peut-être que justement, il symbolise... une lecture que tu peux faire, c'est qu'il symbolise quelque chose qui est ajouté au château, alors que le château est plutôt le domaine de la dame, et que lui, il passe son temps dans les bois, que c'est lui qui incarne cette brutalité de la nature que commente la dame, quelque part. On peut lire ça aussi dans ce sens-là. Et qui sont les deux conjurés ensemble par Morgane.
Et du coup, Bertilac a l'air de détecter qu'il y a quelque chose. Alors, il a attrapé un renard dans un sac qu'il va lui donner. C'est le renard qu'on avait vu avant. Et Bertilac a l'air de détecter. Non, il y a quelque chose. Et puis, il l'embrasse avant que Gauvin décide de...
Il prend son baiser. Hein, il le laisse pas. C'est pas Gauvin qui lui offre le baiser comme dans la version originale.
Il a l'air de faire non, je vois qu'il y a une je vois qu'il y a en surimpression sur ton visage qu'il y a un baiser surnuméraire que je dois récupérer, et il lui rend le renard qui va l'accompagner.
Il lui rend pas le renard d'ailleurs, il a dit j'avais pris ce renard pour te le donner, mais je pense qu'on va le relâcher, le laisser quitte. Et le renard va continuer à l'accompagner.
Et donc, on arrive vers le endgame de l'histoire, plus ou moins. Hein. Il y a encore quelques petits remous dans ce film. Mais il arrive au bout, dans un endroit un peu brumeux, etc., où il va devoir passer une barque pour arriver de l'autre côté.
À la chapelle verte.
À la chapelle. Et le renard s'interpose et lui parle avec une voix humaine. Elle lui dit « Non, on renonce à ta quête suicidaire ». Normalement, dans le roman, c'était le serviteur de Bertilac qui lui disait « Le chevalier vert knows no measure ». Va-t'en, profite de la vie, c'est suicidaire, tu vas pas t'en sortir vivant. Là, c'est le renard qui fait ça.
Tu peux lire comme un agent de Bertilac aussi, d'ailleurs, du coup.
Gauvin s'énerve et va le frapper avec la hache, etc., le chasse.
Ouais, fait mine de le frapper. Notez une chose, c'est qu'il a la même voix que le narrateur du début. C'est la voix du narrateur qui ouvre le film, qui raconte l'histoire, et c'est la même voix qui parle avec la voix du renard.
Ben, j'aurais même pas pensé. Mais bon, il arrive à la chapelle, ruinée par les lianes et les arbres. Et,
c'est littéralement une chapelle, hein, ici. Dans le récit original, ça s'appelle la chapelle verte, mais c'est explicitement pas une chapelle. C'est simplement un creux
une espèce de grotte.
C'est purement naturel. Là, c'est vraiment une chapelle, un vitrail et tout, mais détruite par la végétation.
Et le chevalier vert est là, mais apparemment encore en train de dormir dans une espèce de stase d'hibernation. Et puis, Gauvin s'assied devant et attend. Et ça prend apparemment des heures, voire bon,
une nuit.
Peut-être pas des jours, mais une nuit entière. Et puis le chevalier vert commence à s'animer et il dit « Is it Christmas already ?» Enfin, c'est déjà Noël. Il commence à bouger, il récupère sa hache.
Il y a un peu une symbolique de l'adoubement, en fait, la veillée de Gauvin dans la chapelle, la veille de... Alors qu'on se rappelle, hein, il n'est pas chevalier à ce stade, Gauvin. Et là, Gauvin, justement, veille toute une nuit, plus ou moins en prière, dans une chapelle, avant sa rencontre le jour de Noël avec la vérité, avec son challenge. Il y a un peu un côté prélude à l'adoubement. Et d'ailleurs, je crois que le chevalier ouvre les yeux pendant la nuit et le regarde, mais ne dit pas un mot.
Il y a un moment comme ça un peu inquiétant. C'est aussi, on peut voir ça comme une porte de... Enfin, une tentation supplémentaire de, bon, ben, il pourrait avoir envie de s'enfuir, il pourrait avoir envie de débiner à ce moment-là. Et en fait, ben, le chevalier va dire, bon, ben, il faut qu'on fasse notre affaire.
Tu te souviens comment tu m'as frappé ?
Comment tu m'as frappé ? Vas-y, mets-toi en place. Et la première fois, ben, on avait dit que c'était ça dans le roman, la première fois Gauvin avait un tressaillement parce qu'il voyait la hache lui tomber dessus. L'appareil, et trois fois il bouge la tête au dernier moment et le chevalier vert lui fait même la morale et dit est-ce que j'ai tressaillé, est-ce que vous m'avez vu rechigner ou machin, et Gauvin est de plus en plus
il parle de façon très naturelle, il est très très matter of fact, le chevalier vert, il est pas du tout mystique dans son discours. C'est ça que je trouve assez rigolo aussi, il y a un côté pince sans rire comme ça.
Oui, il est très direct. Alors, il parle de manière très archaïque parce que voilà, il fait écho dit thou. Il va utiliser du thou et du ce parler qu'on associe au Moyen Âge. Mais et d'ailleurs, justement, Gauvin par après va lui demander est-ce qu'il n'y a pas un sens plus profond quelque chose. Puis le chevalier va dire bah non. Bah qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus. Et du coup, en fait, Gauvin panique et dit je peux pas et il se barre en courant. Il retrouve son cheval, Gringalet. Du coup, j'étais là, 10 sur 10. Le film a mentionné que le cheval s'appelait Gringalet. Meilleure tradition du monde. Donc, il retrouve son cheval de façon inespérée. Il rentre, on voit quelques scènes un peu en fondues les unes dans les autres de son voyage de retour qui est assez rapide. Il croise le pierre. On ne sait pas s'il interagit avec. Il a l'air de le regarder. On ne sait pas si est-ce qu'il se venge contre lui, est-ce qu'il le laisse juste partir, on ne sait pas trop. Il rentre couvert de honte, on le nettoie, on le soigne, on le baigne. Il retrouve Essel. Il est adoubé par Arthur qui a l'air d'être vraiment sur la fin. Enfin, il est dans un lit avec Guenièvre, un peu en tête-bêche avec Guenièvre, où ils sont un peu l'un les pieds du côté de l'autre, de la tête de l'autre, et il arrive à peine à se lever pour l'adouber.
Ambiance Charlie et la chocolaterie.
Et il lui confie son épée et il se retrouve héritier du royaume d'Arthur, et on voit carrément qu'il est qu'il devient roi en fait à la mort d'Arthur. Que Essel donne naissance à un enfant,
un fils
que Merlin vient saisir, et il jette une poignée d'argent sur le lit en partant, alors que Essel crie qu'on lui arrache son enfant. Il épouse une femme de sang royal qui ressemble elle à c'est l'actrice qui joue Sainte Winifred.
Non, je crois pas, non. C'est une autre actrice. Mais par contre, elle a.
C'est un peu le même.
Ouais, ça évoque un peu ça. Mais c'est pas la même actrice. Par contre, moi, ça m'a fait penser. Il y a un côté plus pict. Ça m'a fait penser un peu à la Guenièvre de Kaamelott, quelque part, qui a du sang pict via.
Ou dans le King Arthur.
Dans le King Arthur aussi, d'ailleurs. Mais elle a du. En fait, elle a du maquillage bleu. Un côté un peu comme ça. Mais elle est habillée. En même temps, elle est habillée d'une façon très. On dirait. Elle a un look très. Catherine de Médicis plutôt, avec l'espèce de genre de robe fraise, les tresses, donc c'est un peu particulier, mais l'esthétique est très striking, effectivement.
Mais du coup, c'est des scènes qu'on va voir du règne, un peu du début du règne de Gauvin, mais qui sont basiquement muettes, où on va voir son fils grandir. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, c'est un peu la dynamique qu'on avait avec Arthur, qui avait des enfants illégitimes qui traînaient un peu dans le coin, donc Arthur le petit, Arthur le moindre, où il y avait le Holt, mais c'était jamais très clair comme ça, mais des enfants qui en général meurent, ou sont, enfin, comme le Holt meurt, ou bien qui n'accèdent pas à la suite. Et c'est ce qui arrive au fils de Gauvin. On voit que lors d'une bataille, on voit son fils grandir autour de lui pendant qu'il fait des plans de bataille et tout, qui joue avec des jouets à côté et qui est gravement blessé et meurt pendant une bataille. Pendant que lui, Gauvin, devient un peu ce roi mélancolique qui normalement est plutôt le rôle d'Arthur, ouais. Quoi, ce roi un peu qui sombre dans la dépression, qui a pas l'air d'être très à son affaire, et puis on voit le royaume qui est un peu en train de s'effondrer autour de lui. Il a l'air d'avoir une espèce de rébellion qui veut
après la mort de son fils, il se fait lancer un rocher dessus. Ça m'a fait penser à Monty Python's Well, why are you king? I didn't vote for you. Il y a un peu ce côté, il se prend une pierre, et du coup on entend en arrière-plan ses gardes qui exécutent immédiatement la personne qui l'a offensé. Mais évidemment, il y a le côté un peu, c'est pas exactement règne de la terreur, mais c'est clair que c'est pas un roi apprécié. Et ce qui est voulu, c'est une rébellion. C'est clairement ça qui est indiqué.
C'est un roi qui n'est pas apprécié. Puis il voit dans la foule SL, apparemment.
Ou en tout cas, une fille qui ressemble à SL. Enfin, c'est sans doute elle, parce qu'elle n'est pas morte en couche ou quoi que ce soit. Je pense que c'était juste l'implication qui lui prenait son enfant contre une poignée d'argent, son fils. Son épouse donne naissance à une fille. Mais petit à petit, tout le monde l'abandonne, en fait. Lui, il a vieilli, il a une barbe plus longue, il a les cheveux gris. Il a abandonné petit à petit jusqu'à sa mère. Qui avait l'air un peu fier au début de son règne et qui maintenant le quitte et seul. Il y a des coups de boutoir contre la porte, et à ce moment-là, il enlève la ceinture qu'il n'a jamais enlevée depuis la fin de sa quête, et sa tête tombe au sol, et elle redevient jaune d'ailleurs, et elle tombe au sol devant lui.
C'était un coup de hache, voilà, de Japanimation.
Très net, et on voit juste sa tête décapitée, la tête couronnée au sol. Et on revient avec Gauvin agenouillé devant le chevalier vert.
Il y a un côté aussi, on reprend le thème du portrait, parce qu'en fait, dans la salle du trône, on voit ces scènes.
Il y a le portrait que lui a tiré la dame.
Il y a le portrait photographié qui est derrière. Il y a peut-être un côté. Alors, je ne veux pas dire un côté portrait de Dorian Gray, mais il y a cette espèce de trait.
Et pour le coup, c'est l'inverse. C'est le portrait qui reste jeune.
C'est le portrait qui reste jeune, mais c'est un peu.
Comme un portrait, quoi.
Mais il y a ce côté un peu, comme on l'a dit dans ce film, il y a ce côté un peu onirique où il y a des éléments qui sointent d'une partie de l'histoire à l'autre, alors qu'on ne nous explique pas vraiment comment il se retrouvait là, de la même manière qu'il retrouvait sa hache magiquement, de la même manière que la ceinture apparaît chez Bertilac, de la même manière. Ce qui, à mon avis, n'est pas forcément mauvais, vu qu'ils ont fait le choix de. Bon, c'est pas tout était un rêve, mais en l'occurrence, cette séquence-là a l'air d'avoir été une espèce
de projection. C'est aussi un écho avec. C'est pas littéralement le propos de père, là, mais c'est le fait d'avoir un enfant et de l'avoir perdu. C'est un propos qui est littéralement qu'on suppose comme une interprétation de père. C'est un homme qui. La perle de grand prix, ça peut être vu comme la foi ou l'église, mais
dans le manuscrit
de Sir Gawain de Vallée Verte, il y a un poème qui est souvent interprété comme étant le lamento d'un père qui a perdu sa fille ou son fils, enfin son enfant en tout cas. Et là, ça se termine.
Mais on voit que
la
ceinture verte, elle représente en fait le fait de pas vouloir. En fait, c'était ce truc qu'on disait justement de Gauvin qui garde la ceinture d'invincibilité, qui veut pas prendre ce risque. Eh ben ça représente le fait de refuser tout, il y a un peu ce message en filigrane de si tu refuses toute vulnérabilité et tout risque et
tout lien aussi.
Tu essayes d'être dans cette espèce de je veux être invulnérable, je veux ne pas m'engager, et cette peur de l'engagement qu'il avait, mais qui est aussi une peur du risque, tu te retrouves dans cette demi-existence qui tombe en morceaux. Et puis quand il enlève sa ceinture, on revient à la scène décapitation. Et il dit « Attendez une seconde » au chevalier vert. Il enlève la ceinture verte, donc il enlève justement, et il affronte sincèrement l'épreuve, et il dit « Maintenant je suis prêt ». Et il fait ça, enfin il affronte en fait, il accepte la mort, et le chevalier vert là lui touche le visage, comme tous les personnages qu'on a vu avant, et il dit « Bien joué mon brave chevalier ». Et maintenant, now off with your head. Et c'est une phrase un peu difficile à traduire, mais qu'on lui coupe la tête dans Alice au pays des merveilles.
Mais en fait, c'est traduisible d'exactement deux façons. C'est off with your head. Maintenant, on te décapite, mais aussi pars
ou bien
avec
tu peux repartir avec ta
go
tête.
Off with your head.
C'est ça.
Et moi, le film le film est délibérément ambigu. Ça, c'est clair que les deux interprétations sont voulues. Mais le message du film est assez clair que c'est positif. C'est pas, il va pas se faire décapiter derrière. Enfin, je veux dire, sinon...
Alors, c'est le truc, c'est que c'est un film à 24, donc c'est, faut être clair, c'est la dernière scène du film.
Il y a rien après, il y a juste
écran noir.
Non, non, on passe pas à l'écran noir, parce que même l'écran noir, j'aurais pu interpréter ça comme il est décapité. C'est vraiment, il y a le titre qui apparaît avec trois petits points, The Green Knight, et le grelot de la... Alors là, tu peux impliquer ça, tu peux penser à la décapitation parce que le grelot qui tombe, s'il est autour du cou. Mais ouais. Moi, je vois ça plutôt comme un son d'espoir parce qu'après, il y a en plus une chanson, un chant de Noël. Je ne sais pas si c'est littéralement un chant médiéval ou très fortement inspiré d'un chant médiéval, mais c'est pas le Gaudete, donc je ne sais pas si c'est un chant médiéval. Mais enfin, en tout cas, il y a une chanson de Noël basée sur la Renaissance et le tour du Seigneur. Si ça avait été Pâques, bon, j'aurais dit, ouais, d'accord, il accepte de mourir. Hein. Mais là, je pense que. Avec, si tu ajoutes la scène de fin des crédits où tu vois une petite fille jouer avec la couronne, le message que j'y vois est plutôt dans le sens positif, c'est-à-dire que voilà, il a passé l'épreuve et maintenant il peut partir et garder sa tête. Mais après, avoir une lecture tout à fait négative. Il accepte et ça veut dire, bah voilà, il faut accepter de mourir si tu as pris le risque. Mais je pense que c'est un peu un cul-de-sac narratif, disons. Je pense que c'est plus intéressant de voir ça comme la possibilité d'un renouveau, parce que c'est aussi ce que disait la dame dans le château. C'est la nature. Ouais. Jusque-là, il voyait aussi la nature sous un sens négatif. Le verre, c'était la pourriture. Il dit, c'est le sang sous la peau. Ouais. Et elle dit, oui, d'accord, mais on fait la saignée pour faire sortir le sang. Je pense que c'était la couleur d'un bleu un peu verdâtre, d'un hématome. Là, lui, il voit le côté, elle voit le côté, bah, on peut le faire guérir. Et je pense qu'il y a ce côté positif. Qui est aussi quelque part, c'est pour ça que je disais au début du film, que je voyais ça comme une relecture qui voit le roman original comme ayant un sens négatif à la fin, c'est-à-dire à la fin bah, on a la chute du royaume arthurien qui est, disons, suggérée par la décadence qu'implique le fait de prendre la fierté dans cet élément de traîtrise, de refus de l'épreuve qu'avait Gauvin et qui donne honte à Gauvin mais pas à ses chevaliers. Là, quelque part, la version du poème original, est redite d'une façon un peu différente, mais rimante dans le rêve de Gauvin, enfin dans la vision de Gauvin. Il revient, il a fui, mais comme on l'a vu, le récit peut être altéré, raconté différemment. Dans le roman original, il reçoit juste une toute petite coupure, qu'on peut interpréter comme le chevalier, il a l'épée, donc il a la ceinture, donc le chevalier ne le décapite pas, on peut comprendre ça comme ça. Là, il a la ceinture parce qu'il est parti, en courant et c'est la ceinture qui le maintient en vie malgré le fait qu'il ait refusé l'épreuve. Et là, quelque part, alors il a un côté un peu repentir final parce qu'il enlève quand même la ceinture, mais le destin final est finalement assez similaire. Il a un peu un destin d'Arthur, il a un peu le destin de l'Arthur classique. Rébellion, il perd ses enfants, il a un cul-de-sac en fait pour lui aussi. Il finit par perdre tout ce qu'il a entouré.
Oui. Après, je trouve que là, en fait, c'est ça, il a cette espèce d'acceptation de cet ordre naturel, parce que justement, avant la scène finale, j'ai oublié de dire, mais il demande au chevalier, is that all there is? C'est tout. Genre, il dit, voilà, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'autre épreuve, il n'y a pas de. Tu vas juste me couper la tête, tu fais. Puis le chevalier qui dit, bah, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Et en fait, si on prend l'interprétation du film, qui est que le chevalier, c'est justement cette espèce de nature aveugle, c'est, bah, oui, tu donnes un coup à la nature, elle te rend un coup et c'est tout. On a vu des gens abattre des arbres, on a vu des gens qui chassent, on a vu des gens... Oui, tu prends, ils prennent, et il n'y a rien de plus. Et il faut faire la paix avec ça. Et c'est pas ça peut être vu comme pessimiste ou fataliste ou très naturaliste, finalement, qui est justement... Bah, je trouve que c'est assez habile comment ils ont entremêlé les thèmes de l'histoire, les thèmes de l'échange, ce que tu donnes à la nature, ce que tu prends à la nature... Et justement, ce thème de la végétation, ça me paraît plus intéressant de le voir comme ça que comme, oui, c'est la Renaissance, c'est, la nature meurt, oui. Puis après elle renaît. J'ai jamais trouvé ça très intéressant sur le plan narratif. Et là, il y a quand même une force là-dedans. Et puis, l'insistance sur le fait que tout ça est en fait une manigance de sa mère, le fait que Winifred fasse allusion, dise « The Green Knight is someone you know », bah, il n'y a pas mille manières de l'interpréter autrement que ça. C'est un peu trop direct pour avoir une autre interprétation. Les gens qui lui malaxent le visage. Comme tu dis, on a l'impression qu'à la fin, c'est plutôt positif. Mais avec, je trouve la fin audacieuse à 24, parce qu'ils n'aiment pas finir des films univoquement.
Oui, oui.
Mais de l'autre côté, je trouve que justement, si tu veux l'interpréter comme un suspense, bah, c'est pas un très bon suspense. Enfin voilà, c'est pas
non,
un très bon suspense.
Non, mais je pense que, en fait, mon idée, ça combine plutôt un peu ce que tu disais, en fait. Quand je disais que la dame fait allusion au fait que voilà, il y a la nature, c'est aussi source de vie, c'est aussi un source positif, c'est cette relation qui est importante entre l'homme et la nature, quelque part, entre l'homme et son écosystème. C'est pas le fait de. Gauvin, ce qu'il essaie de faire au début, c'est de se préserver de ça. Il reste dans le domaine exclusivement des hommes. Il ne va pas affronter l'ennemi, mais il ne va pas non plus sortir de... Il n'est pas à son aise dans la nature. tout le récit, le fait qu'il se fasse arnaquer super vite par ce type éminemment... éminemment sournois, tu le vois, t'as l'air de dire ouais, ok, il va lui faire un mauvais coup. Lui, il marche en plein dedans. Il est pas du tout à l'aise avec les animaux. Il est pas à l'aise dans tous ces environnements extérieurs à ce qu'il connaît. Et je pense que il y a un côté aussi de dans ce que dit la dame de Bertilax, dire oui, alors la nature c'est brutal, c'est dangereux, mais il faut accepter de vivre avec. Ce donnant, il est là aussi pour aller de l'avant quelque part. Il est pas là dans un sens, je suis pas là dans un sens où il y a toujours une fin positive, mais je voulais le dire plutôt dans le sens où c'est important de maintenir ton environnement autour de toi, de le pas dans le sens bébête, enfin pas dans le sens écolo, hein, mais dans le sens pas dans le sens bêtement littéral, mais dans le sens il faut engager avec le monde, il faut prendre des risques, il faut... Et c'est là qu'on rejoint un peu le discours sur le... Ce qui est important pour quelqu'un du XIVe siècle ou du XVe siècle, c'est ce discours sur l'honneur, sur le fait d'affronter les épreuves. Ici, c'est plutôt peut-être, si tu veux faire une lecture écologique ou écologiste du film, c'est de te dire, voilà, il faut accepter qu'on vit dans le monde, il faut accepter les épreuves que ça inclut, il ne faut pas s'en couper, il ne faut pas se déconnecter de ça, il faut accepter de vivre en relation avec ça. Et c'est ça, peut-être l'honneur, un honneur moderne, quelque part. Si tu veux faire une lecture très modernisante du récit.
Oui, simplement, tu as ce jeune Gauvin qui a de la peine à s'engager, qui veut en fait pas prendre de risques, et qui apprend que bon, bah, il faut prendre des risques, c'est un peu bateau, mais il faut prendre des risques pour vivre, et puis qui est symbolisé du coup par la ceinture magique d'invulnérabilité.
Mais ça, c'était justement... c'est aussi pour ça que j'ai tendance à penser qu'il y a peut-être un côté où tout le monde est un peu in on it du côté de la cour d'Arthur. Alors certes, il y a ce côté avec Merlin, l'allusion un peu, on a un peu l'impression qu'Arthur est, s'il n'est pas au courant au début, le fait que Merlin lui dise non, ça va, c'est bon, puis qu'après on le voit chez la mère de Gauvin, et que c'est là qu'il lui dit, faut y aller, attention, rappelle-toi, il y a peut-être le côté que au début elle ne le fait pas spécifiquement contre Arthur en général, ou même pas avec sans avoir l'autorisation ou l'aval d'Arthur. C'est quelque chose qu'elle fait pour son fils, pour le préparer, parce que c'est clair que le roi Arthur va pas avoir d'autres enfants. C'est pas un Arthur jeune, c'est un Arthur vieillissant. Sa reine est aussi pas elle est plus jeune que lui, elle a l'air un peu plus jeune que lui, mais pas de beaucoup. Ils vont clairement pas avoir toute une descendance, donc c'est lui qui est l'héritier de toute façon. Et on peut voir ça aussi, ce récit, comme une préparation pour Gauvin, pour lui faire comprendre que bah voilà, il faut vivre dans le monde, il faut accepter de prendre des risques. Si tu auras un jour ce rang, tu pourras pas en vivre séparé, sans conséquence, parce que ça t'affectera toi quand même, quoi. Le fait qu'il ait son fils meurt alors que lui, il a la ceinture d'invulnérabilité, tout le monde le quitte, finit par le quitter, et il finit seul. Alors que là, à la fin, on a la petite fille qui joue joyeusement dans la scène post-crédit avec la couronne. C'est pas le même futur que celui qu'on a vu dans la... Pour moi, c'est pas le même futur que celui qu'on a vu dans le rêve de Gauvin. Enfin, ou dans la vision de Gauvin. C'est...
Ouais, je sais pas. Moi, je voyais... la scène finale, je la voyais plus ludique, parce que c'était justement une allusion à... Parce que la dernière scène de cette timeline-là, c'est que sa tête roule par terre. Donc le fait qu'une petite fille joue avec la couronne, ça peut juste être un peu...
Oui, mais elle était partie avant, ouais, et il y avait sa tête... Il y avait cette tête sous la couronne. Mais oui, c'est clairement un clin d'œil à ça.
Je sais pas si je l'aurais interprété.
Mais moi, j'y vois une version plutôt positive.
Il y a le thème aussi... Après, on n'en a pas parlé beaucoup, mais il y a aussi le fait qu'il y a cette question de... En fait, Gauvin, il n'a aucun moyen de savoir ce qu'on disait dans notre analyse du livre. Gauvin, il n'a pas moyen de savoir si la ceinture fonctionne, en fait. C'est ce problème des thèmes d'invulnérabilité, dès l'épopée de Gilgamesh, quand il obtient la plante de Jouvence, bah, il dit il faut que je rentre à Uruk et que je la teste sur un vieux pour voir si ça marche, parce que bah, vu qu'il est pas si vieux, il peut pas savoir si elle marche. S'il la mange, ça va rien lui faire. Et il y a ce côté où c'est la question, est-ce qu'il fait confiance à la ceinture d'invulnérabilité, ou bien est-ce qu'il l'accepte le risque, et il a pas... Il y a ce thème aussi de la magie, il y a ce thème de la des trucs un peu païens comme ça qui reviennent dans le récit. Mais du coup, honnêtement, une très bonne adaptation, j'ai trouvé. Un très bon film, en fait, arthurien. 2021, c'était l'année des films arthuriens, des bons films arthuriens.
Avec Kaamelott, premier volet.
Kaamelott, premier volet, qui avait, tête de marionnette, problème d'érection, Merlin, Barbu. Les ingrédients, ils sont là. Les ingrédients, ils sont là. Hollywood n'en veut pas, mais...
Descendance du roi de Bretagne. Question de la quête de la descendance du roi de Bretagne.
Ouais, la question de la descendance. Je pense que c'est un bon exemple de comment adapter une de ses œuvres, justement, en changeant des choses d'une manière où, même si tu la connais, parce que dans le domaine anglais, c'est quand même une histoire connue, même si tu connais l'histoire, du coup, tu as des éléments qui te font te dire, OK, où est-ce que ça va ? Et je pense que c'est intéressant d'avoir adapté ça plus que... ça m'intéresserait de voir plus d'adaptations de ce genre-là que on ait dans 3-4 ans encore une autre version où il y a des exécutifs de Hollywood qui sont à nouveau persuadés. Tout le monde connaît la légende arthurienne, ça va nous permettre...
C'est les nouveaux super-héros.
Ça va nous permettre d'engranger des millions, etc. Alors il y a, je crois, Snyder qui veut faire des trucs arthuriens depuis 1000 ans et puis soi-disant il est en train de les faire, bon je sais pas à quel point. Je crois qu'il veut faire lui justement un univers étendu, machin. Et à la fois je suis séduit par l'idée d'un univers étendu, mais je pense que l'exécution serait pas fabuleuse, quoi. Mais...
Moi, j'attends l'adaptation de Parsifal sur le même principe que celui-ci. Je pense qu'il y aurait du potentiel, tu vois.
Bah, en vrai, c'est ça. C'est que ce serait peut-être plus intéressant de faire Parsifal ou bien peut-être de faire un pot pourri. Tu prends les romans hollandais. Je pense qu'un des trucs qu'ils ont pour eux, ce film aussi, c'est la partie où ils ont mis les géants, quelques petites aventures, les brigands, Saint-Winifred. C'est que les aventures de Chevalier, c'est le format idéal pour enchaîner des aventures les unes derrière les autres, c'est la structure parfaite pour ça. Tu peux vraiment faire ton chevalier, il a une aventure, une autre, etc. Peut-être il retrouve les personnages qu'il avait vus au début. Tu peux tisser ensemble un peu ce que tu veux, et malheureusement, je crois qu'à cause de la façon, on va dire, que Hollywood a d'écrire des scénarios, c'est pas forcément comme ça qu'on envisage ces films. On va dire, ah non, il faut un voyage du héros, il faut le héros qui part, et puis à la fin, il devient roi, et puis on dit, ah là là, je vais construire la table ronde. Enfin, vraiment, le côté Guy Ritchie, où au final... C'est pas ça le charme du tout de ces histoires-là, quoi. Et le fait d'avoir un côté épisodique, d'avoir des chapitres, d'accepter en fait cette forme un peu médiévale, quoi, du film, ça lui donne un charme que j'espère qu'on va voir dans d'autres. Alors, je crois pas que ça a fait beaucoup d'émules ces trois dernières années, mais qui sait.
Je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est effectivement une excellente adaptation. C'est une adaptation aussi qui est riche, qui ajoute de la matière, qui commande son matériau d'origine de façon très intelligente, qui est... c'est du catnip pour médiéviste, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a une raison pour laquelle ça a été plébiscité partout le Twitter médiéval et...
L'intertextualité, je sens l'intertextualité.
Mais c'est vraiment un film, comme tu dis souvent, c'est un film qui est bon à penser aussi. Il amène son propre propos en utilisant le matériel d'origine originale. Il commente, moi je trouve que ce qui m'a fait pencher du côté plutôt positif, la vision positive de l'issue, c'est le fait qu'il commente délibérément le récit original avec la version, voilà, la fuite de Gauvin, enfin l'échec relatif de Gauvin est commenté et mis en scène, et après on nous montre une version où ça ne l'est pas, alors que derrière on a la dame qui nous dit, voilà, quand une histoire me plaît pas, ou quand une histoire, je trouve qu'il y a une meilleure façon de le raconter, je change la façon. Il y a cette façon de dire, voilà, c'est la version positive de Gauvin de Chevalier Vert, c'est une version qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été une version qui se termine entre guillemets bien, tout en gardant un potentiel de menace et une lecture tout à fait... Tu peux tout à fait faire une lecture légitime négative d'une fin négative. Gauvin accepte son échec final ou accepte le cycle et meurt. Et voilà, c'est comme ça. Arthur, et si tu lis une version sinistre, Arthur en perd son héritier, même si c'est le fils de...
Sa mère en profite pour se débarrasser de son bon à rien de fils qui fait rien qu'à augmenter la journée.
Voilà, tu peux faire une lecture comme ça. C'est une lecture tout à fait possible aussi. Mais je trouve que, justement, c'est un film qui est très riche, qui vaut la peine d'être vu, qui est très beau. C'est un film... magnifiquement filmé. C'est à la mode de se plaindre en ce moment que les films sont trop sombres, qu'on voit pas assez bien. Je trouve que là, même quand il fait nuit, c'est relativement bien éclairé. Il y a un travail clairement à fond dessus. L'esthétique du film est assez chouette. Donc
après, il y a une autre critique qui court beaucoup, c'est qu'aujourd'hui la photographie prend beaucoup le pas sur la cinématographie, en fait. Et je pense que c'est une critique qu'on pourrait faire à ce film, où il y a une photographie très léchée.
Oui, c'est vrai. C'est
très léchée, mais après, à cause du choix d'être dans un univers médiéval, parfois très hiératique, parfois très vertical et ordonné, etc. C'est vrai que des fois, alors il y a des moments où il joue quand même avec ça. Je pense la scène dans la forêt où Gauvin se décompose, on a cette espèce de...
Le smash cut,
de travelling. Enfin, il y a deux, trois moments, mais c'est vrai qu'au niveau purement cinématographique, il y a beaucoup de moments...
C'est très statique, effectivement. J'aurais
de la peine à voir le côté... Tu vois, à part la très belle photographie, mais qui colle à l'histoire telle qu'elle est racontée, il y a des effets. Il y a le moment, la tête de Winifred. Non, il y a quelques effets. Mais ça pourrait être une critique... C'est une tendance qu'on peut critiquer dans le cinéma aujourd'hui, où, je sais pas, là, il y a Dune 2 qui est sorti, puis c'est une critique extrêmement forte de Villeneuve, que bon, il arrive à faire des jolies images... Mais le cinéma, c'est aussi, on va dire, l'art ou la science de
les mettre en mouvement, des enchaînements et les
d'images, de les mettre en mouvement, de les enchaîner, et pas juste, oh, il y a un plan avec un son qui vibre, et puis on voit un gros truc, et puis ça nous montre qu'il est gros et désertique.
Oui,
et
quelque ensoleillé. Part, c'est un peu tu peux faire pour le cinéma la même sorte de remarque que Scott McCloud fait par rapport à la bande dessinée, où tout le cœur de la bande dessinée, c'est dans ce qui se passe entre les cases, en fait. c'est la gouttière qui symbolise les ellipses. Bah là, dans le cinéma, c'est l'enchaînement des plans et des images. Et là, les images, effectivement, s'enchaînent parfois de façon un peu mécanique. Même si, franchement, c'est pas...
Oui, puis dans la beauté du film, il y a aussi quelque chose de gratuit qui, à mon avis, colle un peu à ce sens du merveilleux de ce genre d'histoire. Mais comme on a dit, la scène des géants, il y a plein de scènes où tu pourrais, honnêtement, si tu devais couper du matériel, il y a des scènes évidentes qui tomberaient, quoi. Il prend aussi le temps pour être un peu contemplatif. Ça plaira pas forcément à tout le monde, mais moi, j'ai trouvé ça très joli, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé qu'il passait quand même assez vite, qu'il était quand même assez digeste. Puis je pense que je vais apprécier. Ça fait un bon film de Noël à revoir.
Oui, il y a plusieurs chants de Noël aussi. Il y a plusieurs chants de Noël aussi.
It's Christmas. Ouais, j'ai pas identifié le chant. Je sais qu'il y a un chant français au début. Enfin, j'avais l'impression que c'était du français. J'ai pas eu la curiosité d'aller voir ce que c'était. Mais ça peut être un film à mettre dans votre roster de Noël. Avec Hogfather et puis... Hogfather, il fait, je crois, 4h30, donc il est un peu...
Bon, Noël, t'as du temps, ça va. Si t'as pas toute ta famille, que tu passes pas ton temps en cuisine comme moi, il y a peut-être plus de temps pour...
Il faut faire les 12 jours de Noël, il faut rétablir les 12 jours de Noël.
Ou alors en film, entre Noël et Nouvel An, même si ici, il n'y a pas le côté attente du Nouvel An, comme dans la version en moyen anglais. Là, c'est clairement le jour de Noël, c'est Noël, pour simplifier un petit peu. Mais tu pourrais faire aussi, tu pourrais dire que c'est un film de Christmastide plutôt que d'Adventide. Je sais pas. Ou un film de l'avant. Tu peux faire un calendrier de films. On peut faire le calendrier de films de l'avant arthurien de Rex Grandam, Rex Que Futuro. S'il y a peut-être un truc à en faire.
Mais donc voilà, ça va, je pense, conclure notre examen de The Green Knight. Un retour aux épisodes hors série sur des films. On va peut-être essayer de refaire plus d'épisodes réguliers. Alors, on va peut-être pas réussir à en faire un par mois. Là, on a légèrement échoué à ça, mais on va essayer de faire des épisodes plus réguliers. On va peut-être plus regarder des adaptations aussi à l'occasion. Les prochaines fois, on devrait vous parler de ces fameux romans... on n'est pas encore tout à fait sûr de ce dont on va vous parler en premier, mais probablement on va revenir du côté de Ségurant et des prophéties de Merlin et ce genre de choses, parce que je suis encore complètement en train de baigner dedans. On a fait une vidéo sur la chaîne C'est pas sourcé où on parle de la tradition manuscrite de Ségurant. Antoine, tu as une
révélation. Oui, j'ai une parce que j'étais en train de regarder là. Alors, on l'a pas du tout mentionné, mais le film, j'étais un peu déçu. Il y a une scène de kidnapping, la première scène dans le film qu'on voit après que le narrateur arrive, c'est un village en feu et un type qui emporte une femme.
Ouais.
Et après, on se réveille sur Gauvin qui se réveille. J'étais en train de regarder les crédits.
J'étais en train d'y repenser.
Et les personnages s'appellent Hélène et Paris dans les crédits. Ah. Et c'est l'allusion au When the Siege and Assault. C'est un peu trop malin parce que
tu sais que j'étais en train de récapituler le film, puis j'étais là, ah oui, c'est vrai, il y a cette scène au début où il y a un siège, je sais plus ce que c'était.
Et puis, vu qu'on enchaîne directement sur Noël, au début, je me disais, ah, ça doit être un rêve ou un truc comme ça, puis ça va revenir. Et on peut voir ça comme
un écho de la chute de Troie. Bon, là, c'est effectivement. Je n'aurais
pas pensé dans ce sens-là,
qui,
parce que c'est le rapt de Paris, t'associes plutôt ça au début de la guerre de Troie, alors que la fin de Troie, moi, tu me montrerais un cheval en bois, ou tu me montrerais, je sais pas, Aîné.
Ou quelqu'un qui porte son vieux père.
Voilà ça, ou alors Aîné qui quitte Didon, ou quelque chose comme ça. Et là, pour le coup, ça m'a pas tout de suite évoqué ça.
Vous ne pouvez pas le voir, chers auditeurs, mais je fais un mouvement obscène et méprisant envers les scénaristes.
Non, le scénariste, parce que c'est David Lowery qui a réalisé le film, écrit le film, monté le film, qui a tout fait. Donc, il porte seul la responsabilité. Je viens de réaliser en fait que c'était cette petite allusion comme ça. C'est malin. C'est vraiment un petit. Ouais.
C'est
quelque part, c'est assez évocateur, quoi.
C'est peut-être un peu trop malin pour son propre bien, mais effectivement un film riche.
Comme on l'a dit, jusqu'aux dernières minutes de l'épisode.
Et du coup, on vous retrouve la prochaine fois, probablement cette fois-ci avec de nouveau pour parler des œuvres médiévales arthuriennes.
Et on vous dit, comme d'habitude, n'oubliez pas,
la quête continue.